Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Louise Aubery. Salut Louise.
Salut Adrien.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Oui, alors bon, je suis désolée, ça va être toujours un peu long, mais je suis donc Louise Aubery, j'ai 23 ans, je suis la fondatrice de My Better Self, donc c'est une plateforme sur les réseaux sociaux où j'essaye d'aider chacun et chacune d'entre nous à prendre le pouvoir de sa vie. Et j'ai un podcast aussi qui s'appelle In Power. En parallèle, je crée ma marque de sous-vêtements éthiques et inclusifs, je ne sais quoi. Mmh. Et je suis étudiante, je termine mes études à Sciences Po.
Et tu as quel âge?
23.
23 ans.
Ouais.
Et t'as déjà fait un milliard de trucs. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Moi, ce que j'aimerais bien voir avec toi, comprendre, c'est où est-ce que t'es né, où est-ce que t'as grandi, qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ça et quand est-ce que tu as vraiment commencé à avoir cette activité sur les réseaux, le podcast, etc. C'est quoi la genèse de tout ce truc?
Alors, j'ai grandi à Paris. Je suis parisienne, born and raised. J'ai deux sœurs, j'ai une sœur jumelle et une grande sœur. Et écoute, en vérité, rien ne me prédestinait aux réseaux sociaux, même si je pense qu'en soi, personne n'était vraiment prédestiné à ça, vu que dans tous les cas, ça n'existait pas quand on est né. Je dirais que vers 7-8 ans, j'ai décidé que je voulais être journaliste. Ça me fascinait, les personnes à la télé qui parlaient. J'aimais beaucoup déjà écrire, lire, m'exprimer, donc ça me paraissait assez logique. Et puis j'imagine que c'est mes parents qui ont dû me dire « Sciences Po, c'est la meilleure école pour être journaliste et tout ». Et après, j'ai fait des recherches moi-même sur cette école et c'est vrai que ça me paraissait vraiment l'école avec un grand E, quoi. C'est celle-ci ou rien, Enfin, vraiment, je dirais que mon premier rêve, déjà, ça a été ça, tu vois, c'était d'intégrer Sciences Po. Parce que j'avais l'impression qu'ailleurs, je m'épanouirais pas, que tu vois, c'est une des seules écoles où on étudie vraiment, c'est très pluridisciplinaire, tu vois, t'as pas à te spécialiser tout de suite. Je trouve ça, perso, un peu terrible que, genre, à 17-18 ans, on te dise, bon, est-ce que tu veux faire du droit pendant 5 ans, alors que tu n'en as jamais fait? Enfin, tu vois, j'ai ma meilleure amie qui s'est réorientée après la première année de droit, comme beaucoup, parce qu'en fait, j'ai du mal à comprendre comment on peut se demander, comment on peut se dire qu'on va faire un truc toute notre vie sans le connaître. Donc, c'était un peu ça, le plan.
C'était une évidence vachement tôt, finalement.
Ouais.
Parce que, je vois, moi, j'ai plein de petits cousins, cousines qui ont 17-18 ans et qui arrivent qui sont en première, terminale, et ils savent pas quoi faire, en fait, tu vois. Et souvent, en plus, c'est des provinciaux, donc ils sont loin de Paris. J'ai l'impression qu'à Paris, on a quand même cet avantage d'être peut-être dans le bain où on a accès à peut-être plus de choses plus rapidement que quand t'es en province. Je trouve que ces choix sont hyper difficiles. Je pense que c'est des questions qu'on pose souvent, toi, non?
Alors, en fait, c'est... En fait, ouais, plus trop maintenant. Après, j'en ai pas mal parlé déjà, mais c'est vrai que, enfin, même moi sur le podcast, j'en parle beaucoup de comment trouver sa voie. Alors, c'est vrai que moi, du coup, comme j'ai, enfin, rapidement su que je voulais journaliste, enfin, tu vois, au final, je le suis pas, mais j'étais tellement sûre de moi là, dans cette idée-là que c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir de la chance entre guillemets par rapport aux autres, parce que je me disais, ça doit être terrible, quoi, d'être dans l'inconnu. Puis en plus, je trouve que le système scolaire est pas forcément bienveillant. Enfin, moi, je sais qu'il y a des amis, on leur a dit, en gros, très clairement, tu vas pas pouvoir faire cette école ou ce métier, t'es pas assez bonne. Enfin, comme si tes résultats scolaires déterminaient tes capacités ou non. Enfin, moi, je crois beaucoup au contraire à la motivation et au fait que si on en veut, on peut, tu vois. Mais donc, au moins, j'avais en effet ce confort de savoir où je voulais aller. Du coup, j'avais plus qu'à travailler pour.
Et du coup, faut que t'as un objectif, tu traces, quoi.
Ça m'a... Après, c'était pas mal de stress aussi, hein, parce qu'en plus, à l'époque, parce que maintenant, ils ont supprimé le concours, mais à l'époque, t'avais le concours la même année que le bac. Donc, généralement, quand tu prépares Sciences Po, le bac, c'est pas ton principal souci. Enfin, moi, je m'en fichais un peu. Mais c'est vrai que tu devais quand même travailler à fond en parallèle de tes cours, le concours. Au final, j'ai intégré du coup Sciences Po après le bac. J'étais hyper heureuse. Mais du coup, j'ai eu beaucoup plus de temps sur mes mains. parce que terminale, je préparais le bac, Sciences Po, je faisais de la gym à haut niveau et tout, j'avais vraiment très peu de temps. Et du coup, Sciences Po, c'est... Tu sais, les gens me demandent souvent, c'est pas trop dur. En fait, une fois que tu y es, franchement, c'est pas si dur.
C'est-à-dire qu'ils font vraiment.
Ouais, exactement. Ouais. Ce que j'entends du podcast, parce que je suis pas allée, mais c'est vraiment ça. Ils font la sélection avant. Et du coup, en fait, je me suis remise au sport, que j'avais un peu mis entre parenthèses, du coup. Et en fait, de là est née une passion pour le fitness et la nutrition que j'ai aussi découvert, parce que c'est vrai que mes parents cuisinaient pas vraiment. Donc, tu vois, c'était. Coquille de jambon un peu tous les soirs.
Ah bon ?
Ouais. Mais bon. Enfin,
ils faisaient quoi tes parents ?
Mes parents, ils travaillent dans la banque.
D'accord.
Donc okay. Rien à voir et ouais. J'aime pas du tout moi les chiffres. Donc je savais que c'était pas pour moi.
Ouais.
Et du coup, voilà, véritable passion pour ça que je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment commencé d'ailleurs à utiliser Insta parce que du coup, c'était en 2015-2016. Donc Insta était assez récent. J'utilisais peut-être depuis 1-2 ans. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc de proximité, en fait, quand tu commences à suivre des gens. Et moi, je voulais vraiment interagir avec ces filles, notamment, qui partageaient les mêmes centres d'intérêt que moi. Parce qu'à Sciences Po, t'as pas 10 000 personnes passionnées de fitness et nutrition, tu vois.
Bon.
Donc, je me sentais un peu...
Un peu différente, un peu...
En fait, on a tous des dadas à Sciences Po hyper différents. Hein. T'as des gens qui sont passionnés de trucs, tu savais même pas que ça existait, mais c'est vrai que t'as pas... Enfin, tu vois, moi, je faisais de la muscu, donc c'est vrai que t'as pas 10 000 personnes qui sont dans ce délire-là.
Ouais.
Et du coup, je recherchais un peu ça sur les réseaux, et en fait, c'est vraiment... La création de mon compte est juste partie de ça, de me dire, en fait, là, les filles que je suis, moi, j'avais un compte perso, mais du coup, je pouvais pas vraiment interagir avec elles, vu qu'elles s'en foutent, en fait, d'interagir avec un compte perso, tu vois. Alors je me suis dit, si jamais j'ai un compte qui moi aussi parle de ça, on aura peut-être moyen de créer des liens et tout. C'était pas du tout en mode je vais devenir influenceuse.
Ouais, c'était
en
pas mode... du tout réfléchi, c'est très, très instinctif et très...
J'avais envie de partager avec des gens qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi, que j'avais pas autour de moi, tu vois. Et c'est un peu la beauté des réseaux aussi, je trouve. Et du coup, j'ai créé ce compte Instagram. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai commencé à partager en anglais parce qu'en fait, je me reconnaissais vachement plus dans le message des Américaines ou des Anglaises qui étaient un peu, en fait, l'empowerment, le strong not skinny. Mm. Donc, cette idée de faire du sport et bien manger pour se sentir bien, se sentir forte et pas juste pour perdre du poids. Mm. Alors qu'en France, il y a vraiment cette injonction à la minceur dont on sort un petit peu aujourd'hui. Mais vraiment, tu vois, je dis souvent ça, mais... Genre même dans mon Explorer, je pouvais voir un post d'une fille, de fit girl ou quoi, et je pouvais te dire si elle était française ou anglo-saxonne. Parce qu'en France, c'était toujours un peu dans cet état d'esprit punitif. Mmh. Genre il faut que je fasse un régime, il faut que je perde du poids, donc il faut que je fasse du sport. Alors que dans les pays anglo-saxons, c'était vraiment, je suis une femme, mais j'ai aussi le droit d'être forte, je mange bien pour bien nourrir mon corps, pour me sentir bien dans ma peau, et j'ai besoin de personne. Enfin tu vois, c'était un état d'esprit hyper différent. Mmh. Et du coup, moi, j'ai vachement...
Et donc, toi, t'as enchaîné en anglais direct ?
J'ai commencé, Et je parlais... Enfin, j'écrivais même pas en français, en fait. Hein. en fait, c'est des gens qui ont commencé... Bah, qui ont vu que j'étais française et qui m'ont dit, mais pourquoi t'écris pas en français ? Enfin, nous, on parle pas forcément anglais. Là aussi, biais, j'avoue, enfin, c'est con, mais moi, dans mon entourage, tout le monde parlait anglais, tu vois. Donc, je pensais que tout le monde parlait un petit peu anglais. Et en fait, il y a plein de gens qui maîtrisent pas forcément l'anglais. Et du coup, j'ai commencé à traduire dans les deux langues. Et bref, au final, à être de plus en plus vu par des Français, et des Françaises notamment, parce que ce message manquait, en fait, France, quoi.
Il n'y avait pas de leader d'opinion sur le sujet
Enfin,
il n'y avait pas de compte qui offrait ce type de contenu, quoi.
Il y en avait peu. Après, au début, j'étais vraiment en mode... au tout début, sport, recettes, etc. Ça, il y en avait. Mais voilà, comme je te disais, toujours un peu punitif. Et en fait, après, j'ai rapidement pris la parole sur l'acceptation de soi. Le fait que c'était pas normal qu'on impose à la femme d'avoir un certain corps, de manger... pour avoir une certaine apparence physique. Et en fait, c'est ça qui a vraiment parlé aux gens, parce que pour le coup, là, il n'y avait vraiment personne qui en parlait. Mmh. Et en fait, de là, tu vois, moi, mon message sur les réseaux sociaux s'est vachement élargi, parce que même si j'aime toujours le sport et la bouffe aujourd'hui, en fait, ce n'est qu'une toute petite partie de ma vie. Et en fait, à côté de ça, j'ai énormément d'autres centres d'intérêt. Et c'est vrai que c'est un truc, au début, tu t'auto-censures un peu sur les réseaux, tu vois. Tu te dis, les gens, ils me suivent pour ce contenu-là. Si jamais je commence à poster des photos de mode ou genre de parler de féminisme, ils vont pas comprendre. Et c'est vrai qu'au début, il y avait un peu ce truc, tu perdais des abonnés si jamais tu commençais à parler d'autre chose, parce que c'était pas... Il y a vraiment ce truc, si jamais t'as vraiment un domaine spécifique pour lequel on te suit, en fait, c'est un peu logique que si jamais tu commences à parler d'autre chose, les personnes qui étaient là juste pour le sport ou la bouffe, ils s'en aillent. Et en fait... En fait, c'est moi, je me suis dit, bah, je m'en fous. En fait, moi, je suis pas juste cet aspect-là de ma vie. J'ai envie d'élargir ma prise de parole. J'ai envie de parler de sujets qui me tiennent à cœur, comme l'égalité homme-femme, comme la mode responsable, comme l'environnement. Et en fait, c'est notamment YouTube aussi qui m'a vachement aidé à faire cette transition-là, parce que sur Instagram, on te suit pour un contenu, pour YouTube, on te suit pour une personnalité. Et ça, je, pareil, c'était pas réfléchi, hein, c'est juste qu'en fait, je m'ennuyais, entre guillemets, j'avais besoin d'un nouveau truc, donc je me suis dit, bon, bah, je vais aussi me mettre sur YouTube. Donc ça, c'était après 2 ans sur Insta. Et en fait, c'est vrai que j'ai réalisé que YouTube offrait une proximité hyper différente de ce qu'Instagram offrait. Surtout qu'à l'époque, je ne sais même pas s'il y avait encore les stories sur Instagram.
Ouais.
Mais du coup, après, c'est là où je pense que ce qui est cool sur les réseaux, c'est si on te suit du coup pour toi et plus juste parce que tu aimes tel ou tel sujet ou que tu parles de tel ou tel sujet. Je suis désolée, je me rends compte que je parle tellement.
Tu parles beaucoup, hein.
Ouais,
mais
ouais.
T'as l'habitude, en fait, c'est ton métier de parler tous les jours, tout le temps, de
ouais,
t'enfermer.
Ouais, bah, tu sais, mon métier, surtout d'être enfermé chez moi. Ah, t'as fait, mais c'est vrai que j'aime parler, ouais.
Non, mais c'est trop bien. Ce qui est fou, c'est que ton audience a explosé assez rapidement. J'ai l'impression, très rapidement, t'es devenue une star, quoi.
Alors, je ne vous ai absolument pas comme ça, mais, en fait, ça a été graduel. Moi, ouais. J'ai pas eu de genre telle personne m'a partagé et boum, tu vois. Ouais. Même si, pour l'anecdote, Lil Wayne a partagé une photo de moi sur sa page Facebook.
C'est qui ?
Même si je pense que c'est Lil Wayne.
Je connais pas.
Tu connais pas Lil Wayne ?
Non, c'est qui ?
Bon, écoutez, l'auditeur, auditrice, envoyez un message à Adrien, il ne connaît pas Lil Wayne. C'est un rappeur hyper connu, genre Jay-Z, tu vois.
Oh, putain.
Mais bon. De toute façon, voilà, c'est typique, ça m'a pas rapporté énormément de choses parce que en fait, il a une page Facebook où il poste genre 20 trucs par jour, je pense que c'est pas lui qui la gère. Mais non, mais tout ça pour dire que moi, ça a été très graduel. Je dirais qu'à la fin de la première année, je devais avoir 20, 25 000 abonnés, la deuxième 50 000.
Ce qui était pas mal.
Ouais, non, c'est sûr, enfin, avec le recul.
C'était les débuts d'Instagram aussi, donc peut-être que ça allait plus vite.
Pas tant que ça, hein.
Ouais,
moi, enfin, je crois que c'est 2012 Insta, non ?
2012-2013.
Ouais. Moi, c'était 2016.
Ouais.
Alors, certes, c'était mieux qu'aujourd'hui, hein, mais moi, j'avais... Enfin, comme je te dis, j'avais pas pour ambition d'être créatrice de contenu parce que pour moi, il y avait déjà trop de gens. Enfin, je me rappelle très bien que moi, je suivais déjà 500 personnes. Mais en effet, en fait, j'étais tellement investie. Genre, c'était vraiment... tu vois, moi, je pense que j'ai une personnalité qui fait que j'ai besoin d'avoir un dada. Donc, en terminale, c'était Sciences Po, je préparais que ça. Quand je suis arrivée en première année, j'ai découvert le sport et la nutrition, ça a été ça à fond, j'étais vraiment passionnée. Et après, quand j'ai eu mon compte Insta, c'était ça, genre, je réfléchissais toujours à quel contenu je pouvais faire, je travaillais vachement mes légendes. Enfin, tu vois, je pense que le cœur qu'on met à l'ouvrage joue aussi beaucoup.
Ouais,
hein.
Ouais. Pour revenir sur la ligne éditoriale, je trouve que c'est vachement intéressant de dire, ok, bah, les gens venaient pour ça, et puis j'ai commencé à ouvrir, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en as fait de cette ligne éditoriale ? T'es toujours, c'est Louise Aubery qui raconte... ses batailles, en tout cas, ou qui défend ses opinions. Voilà, c'est ça aujourd'hui.
Bah, c'est vrai que, tu vois, moi, je me suis jamais posé en me disant quelle va être ma ligne éditoriale. Parce que le principe, je pense aussi, quand tu t'incarnes sur les réseaux, c'est d'être fidèle à toi-même. Donc, en fait, moi, je parle de ce que j'aime, des sujets qui me tiennent à cœur.
Écoute, ton cœur, tes tripes.
Ouais, vraiment, tu vois, ça peut être autant de la bouffe, parce que j'adore ça et je continue à en parler, que des tenues, parce que j'aime bien faire découvrir des marques responsables à ma communauté. Que des posts un peu plus coup de poing quand il y a une actu qui me déplaît, genre le César accordé à Sacha Polanski. Donc vraiment c'est en fonction de mes envies.
De tes ressentis, de tes coups de gueule.
Ouais, je me suis jamais dit non ça, je peux pas, tu vois.
Tu te censures pas ?
Non, je me censure pas du tout.
Ouais.
Et après j'ai la chance aussi d'avoir une communauté hyper bienveillante, hyper ouverte. Tu vois, je suis exposée à peu de haine au final. Ouais.
Et pourquoi, d'après toi, ça a pris ? Enfin, pourquoi l'audience a grandi ?
Alors moi, je pense pour deux raisons. Une, pour moi, il faut toujours chercher à apporter de la valeur
aux gens.
Donc, c'est-à-dire, même au début, quand c'était que bouffe et entraînement, c'était vraiment, je détaillais toutes les recettes, je détaillais tous les entraînements. Enfin, tu vois, je mettais vraiment... Enfin, j'essayais à que chaque poste apporte quelque chose. Et après, ça a été plus de la réflexion, partager mon ressenti. Donc, je pense, voilà, le côté aussi être vrai a plu. Et je pense que la deuxième raison, c'est que j'étais vraiment... Le terme précurseur sonne un peu pompeux, mais en tout cas, j'étais une des premières à parler de body positivisme en France. Et en fait, je pense qu'on avait un grand besoin, quoi. Aujourd'hui, c'est un peu mainstream, on parle tous de body positivisme, c'est trop cool, il y a des marques qui montrent, oh là là, des femmes qui font du 42, mais il y a 4 ans, pas du tout, quoi.
Ouais.
Et du coup, je pense que ça a vachement aidé, ouais.
Ouais. Et après, YouTube, le podcast, c'est, encore une fois, là, c'est vraiment une envie personnelle. C'est pas du tout une stratégie très calculée. C'est l'envie de travailler l'image, de travailler le son, mais avec des lignes éditoriales un petit peu différentes, parce que My Better Self et InPower... D'ailleurs, est-ce que c'est pas contre-productif de développer plusieurs médias comme ça? Parce que ça, c'est des questions que je pense beaucoup de gens se posent. Pourquoi ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier?
Ouais, c'est vrai. Bah, comme tu dis, je me suis toujours écoutée et j'ai besoin en fait d'avoir des nouveaux projets souvent parce que c'est ça qui me stimule. Et donc après 2 ans d'Instagram, j'ai créé ma chaîne YouTube. Plus par curiosité, voir quel type de contenu on pouvait offrir, même si du coup là c'est vrai que c'était assez dans la veine de ce que je faisais sur Instagram, un peu plus lifestyle, tu vois, bah, notamment comme je reprenais les cours aussi, j'entrais en Master 1, je partageais beaucoup de vlogs de mes journées à Sciences Po, / créatrice de contenu, et donc voilà, c'était vraiment, on veut du vrai avant l'heure, et le podcast, pareil, bah, en fait moi j'en écoutais beaucoup, donc à l'époque des podcasts américains, parce que franchement il y a 3 ans, il y avait tellement peu de podcasts français, Et moi, ça m'a énormément aidé, les podcasts. Ouais. Genre, avec le recul, mais tu vois, je le dis tout le temps, ça m'a communauté, parce que je crois qu'une fois, j'avais fait un sondage par curiosité en story, en mode, qui a déjà écouté un de mes épisodes de podcast? Parce que je partage quand même toutes les semaines en story les épisodes. Alors, j'en parle pas forcément hyper souvent en post, je sais pas forcément pourquoi. Je sais pas, tu vois, mais c'est vrai que pour moi, la story s'y prête plus. Et je crois qu'il y avait quand même 50% des gens qui n'avaient jamais écouté un épisode.
Ok.
Et je me suis dit, putain, mais... Et en fait, tu vois, j'ai envie de forcer personne, mais moi, ça m'a tellement aidé que... Enfin, entre Instagram, YouTube et le podcast, c'est vraiment les podcasts qui m'ont le plus apporté. Niveau déconstruction, parce que moi, enfin, je le dis souvent, j'ai aucun mal à en parler. J'ai pas été satisfaite de l'éducation que j'ai reçue, on peut dire ça comme ça.
Même à Sciences Po?
Non, pas du tout, je parle familial.
D'accord, ok.
Ouais. Et du coup, j'avais besoin de...
On les aime quand même.
Ouais, bien sûr, on les aime quand même, mais c'est vrai que... ce que j'ai appris sur les podcasts, personne ne me l'avait dit, tu vois. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie, l'important, c'est pas le prestige, mais c'est faire ce que tu aimes.
Bien sûr.
Et genre, ça m'a vraiment déconstruit des barrières mentales énormes. Et du coup, pour moi, c'est... Enfin, pourquoi est-ce qu'on n'écouterait pas des podcasts? Après, les gens qui nous écoutent, ils ont compris
je pense qu'ils ont compris.
Mais c'est vrai que du coup, c'est pour ça que je voulais faire un podcast. Je me suis dit, si moi aussi, je peux aider des gens, peut-être à réaliser des choses qu'on leur a pas dites.
Mais pourquoi ces 50%, ils n'auront jamais écouté de podcast?
Et ben, ce qu'ils me disaient, c'est que du coup, après, j'avais dit pourquoi. C'est que c'est pas un média qui leur parle. C'est pas, c'est des gens, je pense, qui sont plus images, qui sont plus vidéos. Moi, j'en parlais encore avec ma cousine qui s'est lancée sur TikTok et tu vois, qui adore ces formats hyper courts, hyper. Moi, ça m'angoisse. Genre, franchement, tu peux rien dire en 15 secondes. Et en plus, elle bosse dans l'immobilier aux États-Unis. Donc, enfin, tu vois, je lui ai dit, mais fais un podcast plutôt. Genre, je pense qu'il y a plein de gens qui sont intéressés. Tu vois, elle aide un peu, en gros, les jeunes à se rendre compte qu'ils peuvent acheter des biens et après à les louer pour se faire de l'argent. Mais elle m'a dit, non, moi, les podcasts, je sais pas, je décroche. C'est pas leur truc.
Ouais. C'est une histoire de
personnalité. Après, je pense qu'il y a aussi une barrière mentale. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui n'en ont jamais écouté. Moi, je me souviens, il y a 5 ans, pour moi, podcast, c'était cette vieille appli de l'iPhone. Je sais pas pourquoi elle était là alors que je l'avais pas demandé, tu vois.
Violette.
Ouais, bah, elle est toujours d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est. Voilà, c'est, à chaque fois, ça a été un peu genre, j'ai envie, donc je fais.
D'accord.
Et après, c'est vrai que. Je pense que la grande chance que j'ai eue, pardon, tu me dis, sincèrement, je parle autrement. Mais la grande chance que j'ai eue, c'est en fait d'avoir créé tout ça quand j'étais étudiante. Donc en fait, j'avais besoin d'argent. Donc je m'en foutais. Enfin, si tu veux, c'est venu après parce que ça vient avec l'audience. Mais du coup, j'avais pas cette contrainte. Du coup, c'était vraiment genre, fais-toi kiffer, fais ce que t'aimes. Et je pense que c'est aussi ça qui marche. Pour moi, si tu fais ce que t'aimes et que t'apportes de la valeur, bah ça marche.
Mais c'est marrant parce que c'est quelque chose que... Là, j'ai interviewé il y a pas très longtemps Constance Gennari de The Socialite Family.
Ouais, bah c'est ce que je suis en train d'écouter.
Voilà, The Socialite Family, elle le dit dans son podcast. Au départ, elle a lancé ce truc-là, c'était très instinctif, elle savait pas comment elle allait monétiser, tu vois, alors que c'était quand même... Elle avait 27-28 ans, qu'elle avait besoin de gagner de l'argent. Mais je pense qu'il y a un moment où quand tu crées quelque chose... il faut quand même écouter ses tripes et lancer un truc qui te fait vraiment kiffer, et ça vient presque après finalement la monétisation.
Quitte à franchement prendre un job à côté en parallèle pour payer tes factures à la fin du mois. Je sais qu'il y en a pas mal qui négocient une rupture conventionnelle, qui du coup ont un chômage un certain temps pour lancer leur projet. Mais en effet, pour moi, si c'est pas un truc qui vient des tripes, en fait, c'est la seule chose qui peut te faire tenir dans le temps et qui fait que tu vas y mettre toute ton âme, quoi.
Ouais, il faut vraiment que ça te fasse kiffer.
Ouais.
Et tout ça, donc, tu le fais en parallèle de Sciences Po. Sur Spo, qu'est-ce que tu en retiens? Enfin, t'as pas arrêté, t'as pas droppé. Est-ce que t'aurais pu dropper aussi? T'aurais pu dire, bon, ouais. Fuck off.
Ouais. En vrai, je me suis posé la question. C'est-à-dire qu'à la fin de ma licence, enfin, en fait, en troisième année, à l'étranger, tu pars à l'étranger. À Sciences Po, tu pars à l'étranger. Et en fait, moi, j'ai fait un projet personnel. On a aussi cette option-là. On est genre 1% à le faire. Et du coup, j'ai fait 6 mois de programme entrepreneurial à Berkeley et 6 mois à Paris.
Berkeley, quoi, c'est Los Angeles?
C'est Californie, près de San Francisco.
Ouais, ok.
Bon, au final, j'ai pas du tout aimé, mais ça m'a aussi fait réaliser que je voulais pas devenir start-upeuse dans la tech, lever des fonds, tout ça, ça me ressemblait pas du tout.
Okay.
J'aime ce côté slasher, en fait. Mmh. Et ça, c'est là où, tu vois, c'est bien aussi d'en parler là, c'est que on a tendance parfois à idéaliser des métiers. Mmh. Ou comme je te disais, on est sûr, tu vois, moi j'étais sûr que je voulais être journaliste. Après, quand j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat, j'étais sûr que je voulais être entrepreneur. Au final, je le suis, mais vraiment, c'est pas ce que j'imaginais à la base. C'est-à-dire que pour moi, entrepreneur, c'était fallait que t'aies une grosse boîte, fallait qu'on parle de toi. Et en fait, j'ai toujours vachement eu peur, moi, des échecs, entre guillemets. Enfin, je peux te dire qu'en rentrant de Berkeley, en plus, j'avais eu des problèmes hormonaux, bref, ceux qui me suivent savent tout. Mais je suis vraiment revenue de là en mode déprime. Je suis là, ok, je suis partie 6 mois à Berkeley, ça m'a coûté archi cher, j'ai pas du tout kiffé mon semestre, je reviens un peu au point de départ. Et avec le recul, en fait, c'est vraiment bien que j'ai pu avoir cette expérience, parce que ça m'a fait réaliser que moi, pour rien au monde, je veux sacrifier ce côté, je fais plusieurs trucs en même temps. J'ai pas envie de me dédier à 100% à une seule boîte, parce qu'après, j'étouffe. Donc voilà, donc ça c'était ma troisième année. Après, donc j'ai repris en. Donc du coup, là je m'étais dit, franchement, si je lance ma boîte, tant pis, j'arrête Sciences Po. Donc tu vois, j'étais partie aux États-Unis en mode ça se trouve, je reviens pas. Au final, j'étais grave contente de revenir. La vie étudiante m'avait grave manqué. Franchement, mon année Master 1, c'était la meilleure année de ma vie à date.
Et les États-Unis te plaisaient plus moyennement?
Non, c'était pas le franchement, kiff, je pense que j'étais peut-être du mauvais côté de la côte. Je pense que je me serais plus à New York, mais à Californie. En fait, je t'avoue, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi j'avais pas kiffé, mis à part le fait que ce programme était quand même un peu chelou, franchement. En gros, ils mettaient plein d'étudiants de grandes écoles ensemble, et ils leur disaient genre monter des boîtes. Mais en fait, c'est hyper artificiel. Ça, tu devais trouver tes cofondeurs dans un groupe de 40 personnes. Mais enfin, toi-même, tu sais, tes cofondateurs, ça doit être comme ton mec ou ta meuf, tes meilleurs potes. Enfin, ça doit être quelqu'un en qui t'as vraiment hyper confiance, pas quelqu'un que t'as rencontré il y a un mois. Donc bref, mis à part ça. En fait, la culture, j'ai sous-estimé le poids de la culture, en tout cas pour moi. J'ai réalisé que je pense que je pourrais pas vivre ailleurs qu'en France.
Et qu'à Paris.
Alors ça, en vrai, oui. Mais je m'interdis pas d'avoir une petite maison de vacances près de la mer, tu vois.
Ouais.
Mais j'avoue que, enfin, tu vois, là-bas, personne ne débat. Il y a pas de musée. Il y a vraiment, tu vois, c'est con. Mais cette espèce de capital culturel. M'a vraiment manqué. Et je trouve. Enfin, ils sont vraiment. En fait, ils sont très gentils. Hein. Franchement, mon voisin, mais trop mignon, quoi. Il me proposait de m'amener en cours en voiture. Enfin, à Paris, ton voisin, il te propose d'aller en cours. Tu te demandes s'il veut pas te violer. Enfin, tu vois. Mais derrière, c'est quand même hyper superficiel. C'est très en surface. Et moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai besoin vraiment d'aller en profondeur. Ouais, voilà. Donc, c'est ça. Ouais, j'ai pas adoré. Et donc, après, je suis rentrée à Paris, Master 1. J'ai fait une césure après. Parce que franchement, mon année Master 1 a été très intense. Déjà, j'avais pas encore la marque, mais déjà, mes activités sur les réseaux plus les cours, c'était hard. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va respirer un an. Et en plus, j'ai envie de lancer une marque. Donc, on va en profiter, on va lancer cette marque pendant mon année césure.
Comment c'est arrivé cette histoire de marque?
Ce qui ne s'est pas fait, mais.
Envie, parce que bon, de journaliste à devenir entrepreneur,
ouais,
à lancer une marque en si peu de temps, t'as switché de ouf.
Bah, en fait, je pense qu'à partir du moment où j'ai commencé à gagner ma vie sur les réseaux.
Parce que à partir de quel moment tu as gagné ta vie? Parce que ça, c'est quand même un sujet hyper intéressant qu'on peut développer un petit peu. Aujourd'hui, tu gagnes ta vie. Tu gagnes vachement bien ta vie ou tu gagnes,
j'ai gagné assez bien ma vie pour avoir embauché une bras droit cette année et travailler avec des freelances. Donc ouais, c'est franchement une entreprise.
C'est fou quand même.
Ouais, c'est assez fou.
Tu réalises quand même de ce que t'as fait en si peu de temps?
Non.
Non,
c'est un vrai problème moi que j'ai. Tu vois, je dis toujours à ma communauté, soyez fiers de vous et regardez le chemin parcouru. Mais c'est vrai que moi, je dis souvent... Tu vois, quand les gens me disent ça fait quoi d'avoir 400 000 abonnés et tout. Moi, franchement, j'étais aussi heureuse quand j'ai eu 10 000 abonnés. Hein. Je te jure. Hein. C'est vraiment une histoire de perspective, en fait. Donc, je suis super fière de ce que j'ai accompli. Je suis super contente.
Mais t'es encore
mais
très
moi, enfin, c'est pas du tout un point final. Enfin, ouais, tu vois, c'est.
C'est quoi d'ailleurs la vision? Enfin, à partir de quel moment tu seras satisfaite?
Je pense jamais. Hein. C'est, ouais. Enfin, ou alors, mais c'est vraiment ça. On va partir loin là, Adrien. Ouais, je te préviens.
Partons,
en fait, ma réflexion en ce moment, c'est de me dire que ça, c'est un truc que tu trouves à l'intérieur.
Ouais.
C'est-à-dire que si, enfin voilà, les personnes qui nous écoutent sont comme moi, à toujours chercher à l'extérieur. Je sais pas quoi, parce que même moi je sais pas ce que je recherche, mais je sens que mon accomplissement vient de ce que je fais et pas de ce que je suis, ce qui est à mon avis problématique. Donc moi j'aspire en gros à trouver un peu le bonheur intérieur par un peu une voie spirituelle, on va dire. Enfin en tout cas, les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont vraiment donné l'impression d'être putain d'heureux, ouais. bien dans leur peau, pas stressé et tout.
Qui ?
Bah notamment Jonathan Lehmann, tu vois là c'est vraiment le mec à qui je pense, que j'ai reçu sur mon podcast, on a fait deux épisodes tellement c'était intéressant.
C'est qui Jonathan Lehmann?
Et ben écoute, c'est un homme qui était avocat d'affaires à Wall Street, qui a tout plaqué pour étudier le bonheur, et qui maintenant en fait, bah, il est aussi slasher au final, hein, mais il est auteur, il a une application de méditation qui s'appelle Seven Mind, il donne des conférences... Enfin, tu vois, c'est, je pense, à un futur gourou. Peut-être, tu vois, enfin, généralement, les gourous, ils sont plus âgés. Donc, ça, je pense qu'il est trop jeune. Mais c'est vraiment un peu le mec comme ça qui a eu un éveil et qui est rentré dedans. Et enfin, rien que de lui parler, c'est apaisant, tu vois. Genre, et je pense qu'en fait, c'est ça, le bonheur. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que moi, en fait, pourquoi, au final, je ne me suis jamais trop remonté dans cette voie-là, c'est que déjà, de l'extérieur, on va pas se mentir, ils ont toujours l'air un peu perchés. Donc moi, je me reconnaissais pas trop là-dedans. Et en plus, j'avais l'impression que, en fait, c'était pas compatible avec une vie d'entrepreneur. Et la vie d'entrepreneur m'épanouit tellement que je me disais, je continue, et tant pis, si à un moment, il y aura un mur. Mais en fait, je vois très bien... Enfin, Jonathan, il fait plein de trucs, mais c'est juste que il sait qu'au final, rien n'est grave, que, tu vois, son livre, il est sorti une semaine avant le confinement, ben... C'est pas grave, qui trouve plus le bonheur dans la quête de soi et la reconnexion, enfin tu vois, l'instant présent, ce truc que je ne sais même pas encore vraiment ce que c'est. Du coup, voilà, pour moi, c'est ça au final que je cherche sans trop le chercher parce que je pense que c'est un chemin. Mais ça me rassure, tu vois, maintenant d'avoir eu cette petite éveil, de commencer, enfin ça fait 2 mois et demi que je médite, donc je suis archi fière parce que je suis pas du tout le profil qui peut méditer normalement.
Comment t'as réussi à méditer parce que. Je pense que souvent les jeunes gens, comme toi, parce que t'es quand même jeune, hein, il faut le dire. En fait, c'est dur de méditer. Enfin, moi, j'ai commencé à méditer, j'avais 28, 29, 30 ans. Je me rappelle plus exactement à quel moment, mais je trouve que ça demande vachement de recul quand même.
Ouais, je pense que ça demande au final un peu de désespoir. C'est-à-dire que, enfin, moi, j'avais essayé de méditer dans des périodes de ma vie où j'allais très bien, je me suis pas tenue, tu vois. Ouais. Donc, faut commencer dans une période un peu sombre,
un peu noir,
où tu te dis, bon, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et alors bon, moi notamment, ce qui m'a aidé, c'est cette appli là Seven Mind, parce qu'en fait c'est des stages avec des thèmes, et donc en gros c'est un peu pour accrocher les accros à la productivité, tu vois. Je me suis dit bon, ben comme ça j'ai à apprendre des trucs, donc j'avais pas l'impression de perdre mon temps. Ce qui était en soi pourquoi je faisais pas la méditation, c'est que j'avais l'impression de perdre mon temps. Et franchement ouais, ça m'aide de ouf. Franchement, je trouve ça vraiment trop cool.
Trop bien. Avant de revenir sur la marque, ton activité de femme d'influence, comment tu te dis...
Créatrice de contenu. Ouais.
Comment ça s'organise aujourd'hui? Est-ce que tu as un agent? La constellation Louise Aubery, ça ressemble à quoi? Quels sont les canaux de... pas d'acquisition, mais en tout cas les flux entrants en termes d'argent, etc. Raconte-nous un petit peu tout ça. Comment t'as organisé tout ça pour en faire un vrai business, quoi?
Ouais. Alors, du coup, bah, quand je suis revenue à Paris de cette année de césure, je commençais à travailler avec ma grande sœur, qui s'était avérée pas être la meilleure idée du monde, mais c'est pas grave.
Pourquoi ?
Bah, on travaille pas du tout bien ensemble. Enfin, tu vois, au final, maintenant, elle s'est rendue compte qu'elle voulait faire de l'associatif, donc c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le fait de gérer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Mais l'idée, comme elle devait faire un stage de fin d'études, parce qu'elle est plus âgée que moi, l'idée, c'était que je la prenne en stage et que, du coup, elle gère toute la partie business qui commençait à se développer. Donc, c'était un bon timing. Et que moi, en effet, je commençais à galérer, à déjà créer tout le contenu et à gérer en plus tous les partenariats, etc. Donc, elle a fait un peu ça. Mais bon, c'était des petites sommes, tu vois. Je crois que ça payait juste à elle son salaire à la fin du mois. Et en fait, après, c'est une agent qui m'a approchée.
Okay.
Laurie Lynn, que j'embrasse, qui travaille chez Au Féminin et qui, en fait, était agent au Canada avant. Et elle a proposé en fait à Au Féminin de créer une petite agence d'influence avec que des femmes engagées. Et du coup, ça m'a vachement plu. Vraiment, ça avait l'air hyper bienveillant. Tu vois, j'avais pas de contrat d'exclusivité. Je pouvais partir quand je voulais si jamais j'étais pas satisfaite. Et voilà, elle m'a dit on fait un test. Et
Trop bien.
Et on voit comment ça marche.
Continue.
Ok. Et du coup, j'ai commencé voilà, à travailler avec Laureline et en fait, c'est carrément là que j'ai commencé à gagner ma vie parce que c'est vrai qu'un agent, ça change la vie. Niveau budget, moi, je ne savais pas ce que je valais, en fait. Enfin, ce que je valais. Le fait que je sois suivie par autant de personnes, je ne savais pas combien on pouvait le monétiser parce que c'est vrai que c'est de la publicité au même titre qu'une publicité à la radio ou à la télé.
Bien sûr.
Et du coup, ben, voilà, c'est vraiment là que j'ai commencé à gagner ma vie. Du coup, c'était il y a un an et demi. C'est dingue. Ça me paraît il y a tellement longtemps. Et voilà, et donc après bah, j'ai arrêté de travailler avec ma sœur au bout de 6 mois. Mmh. Et donc vraiment, mon année Master 1, j'étais bon, toute seule avec mon agent, mais c'est vrai que du coup, voilà, j'avais beaucoup, beaucoup sur le dos. Et en fait, j'ai été toute seule même pendant toute mon année de césure, avec toujours mon agent, mais si tu veux, sur tous les projets, podcast, YouTube, je ne sais quoi, Instagram, j'étais solo. Mmh. Aussi parce que j'ai ces deux personnalités là. Je devais commencer à travailler avec quelqu'un en avril. Le Covid a voulu que ça ne s'est pas fait. Et donc, en fait, j'ai continué solo jusqu'à là, il y a un mois, où j'ai trouvé une perle rare. Oriane, si tu nous écoutes. Donc, une bras droit qui vraiment... On a pris l'énorme gâteau et on l'a coupé en deux, quoi. On s'est dit, bon, alors, vas-y, toi, tu vas faire ça, moi, je vais faire ça. Et même en soi, c'est très... ça se mélange vachement. Mais tu vois, j'en suis vraiment au stade où ça fait qu'un mois qu'elle est là et je me demande comment j'ai fait tout ce temps sans elle.
D'accord. Et donc, le chiffre d'affaires que tu rentres, c'est quoi? C'est du post-sponsorisé? C'est du sponsoring de podcast? C'est quoi?
Tout ça, c'est en fait, moi j'appelle ça du brand content. En fait, je crée du contenu qui me ressemble et qui ressemble à la marque, que ce soit dans une vidéo YouTube, que ce soit sous un format de pré-roll de podcast, que ce soit sur Instagram, en story, quand je mets en avant des produits qui me plaisent. Donc ouais, c'est vraiment ça, exclusivement ça. Donc c'est vrai que, en fait, ça grandit hein, avec la taille de ta communauté. Donc c'est ce qui me permet de recruter Oriane aujourd'hui et travailler avec des freelances. Donc ouais, c'est vraiment le brand content.
Trop
un
bien.
Peu comme un média.
Ouais, carrément. Et ça, c'est quelque chose que tu veux garder, conserver, faire évoluer? Parce qu'entre-temps, tu as eu cette envie de créer ta propre marque. Et on va y venir, hein, on va te creuser, on va te cuisiner à fond. Mais c'est quoi la vision pour ce média?
Bah, moi, je ne suis pas du tout vision à 10 ans, 20 ans. Je trouve ça un peu anxiogène. Je continuerai tant que ça me fait kiffer. Enfin, en tout cas, je sais que je continuerai les réseaux. À part si je fais un burn-out at some point. Mais c'est un truc qui me plaît vraiment, le partage. J'adore. Et après, est-ce que je continuerai à le monétiser? En soi, moi, j'ai vraiment aucun mal à créer du contenu quand c'est des marques qui me plaisent. Je pense que je le regarderai toujours un peu parce que je trouve que ça stimule la créativité. Moi, je sais que je fais pas du placement de produits, entre guillemets, tu vois. Je vais vraiment réfléchir à ce que je peux proposer à la marque, quelle vidéo je peux faire. Enfin, j'adore avoir des idées.
Tu refuses quoi, par exemple?
Bah, je refuse à peu près 95% des propositions que je reçois.
Ouais.
Déjà parce que j'appelle ça une éditoriale, mais enfin, c'est juste moi, en fait, comme je suis très engagée.
Ouais.
Bah, déjà, la fast fashion, c'est ciao. Toutes les marques qui sont pas éthiques, c'est ciao. Si c'est pas un produit qui me fait kiffer, c'est ciao. Enfin, parfois les budgets ils sont pas malheureusement à la hauteur. Et en fait, tu vois, quand on dit ça, on peut se dire ouais, la meuf elle accepte pas les petits budgets machin. En fait, c'est vraiment un problème de temps. C'est à dire que si j'accepte la marque qui a un petit budget, ben j'aurais pas le temps en fait de prendre tout le temps que je prends à créer du contenu, à imaginer le contenu, à le produire pour une autre marque qui elle à le budget qui me permet de le faire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a aussi ce choix rationnel, même si à chaque fois que j'ai un coup de cœur, tu vois, je peux en parler, même si c'est moins travaillé. Mais donc voilà, en gros les critères c'est vraiment que ce soit une marque que j'apprécie sincèrement et voilà, qui me permet de créer du contenu qui me ressemble.
Trop bien. Alors ta marque, comment elle s'appelle?
Je ne sais quoi.
D'où vient ce nom?
Alors, ce nom m'est venu naturellement. Ouais. Donc, en fait, comme beaucoup de trucs, je ne l'explique pas.
Ouais.
My Better Self, ça m'est venu un jour comme ça. Je me suis dit, OK. In Power, ça m'est venu comme ça. Même si In Power, il y a quand même un lien avec... en gros, je trouvais que le thème Empowerment me dérangeait. Parce qu'on entendait vachement Empowerment des femmes, etc. Empowerment, ça veut dire autonomisation. Je pense que les femmes n'ont pas besoin d'être autonomisées, mais qu'elles ont besoin d'être au pouvoir. Donc j'ai appelé mon podcast In Power. C'est peut-être le plus réfléchi de mes noms, mais je ne sais quoi, ça m'est venu vraiment comme ça. Je me suis dit, je trouve que ça représente bien ce que je souhaite apporter, donc le je ne sais quoi qui manque à l'industrie de la lingerie. C'est aussi libre interprétation, c'est ce qui représente la singularité de chaque femme. On a tout ce je ne sais quoi qui nous rend unique, et moi ce que je veux au contraire, enfin ce que je veux c'est mettre en avant la singularité des femmes plutôt que d'essayer de la cacher. C'est un nom qu'on comprend a priori à l'international, puisqu'il faut aussi penser à ça. Donc voilà, je ne sais quoi.
Trop bien. Et alors, je crois que c'est la première fois que je reçois quelqu'un qui n'a pas encore lancé sa marque, qui s'apprête à la lancer en tout cas. On commence par quoi ? Enfin, tu commences par quoi ? Explique-nous le processus. Donc, le nom est tout de suite arrivé. Pourquoi la lingerie ? Parce que tu aurais pu faire un milliard
carrément.
De trucs. Quoi. Pourquoi la lingerie ?
C'est pas le plus facile en plus, hein. Ouais. En fait, c'est vraiment venu d'un besoin personnel, tu vois.
Tu trouvais pas.
Je trouvais déjà, et les meufs qui nous écoutent comprendront, c'est très difficile de trouver des sous-vêtements à la fois confortables et beaux. Généralement, soit tu as l'ensemble grave beau de lingerie. Que tu mets pour faire plaisir généralement à quelqu'un mais qui n'est pas du tout confortable ou t'as tes bonnes culottes bien confort que tu mets quand tu sais que tu vas voir personne ou que t'as tes règles mais qui sont pas très jolies, pas très flatteuses. Donc déjà il y avait ce problème là et en plus quand par miracle tu trouvais des sous-vêtements confortables et beaux, c'était très rarement éthique. Donc vraiment la lingerie, autant dans le bain ils commençaient à avoir des initiatives, filets de pêche recyclés, tout ça, autant dans la lingerie c'était polyester, polyamide, coton, tu vois, donc il y avait vraiment quelque chose à faire, et en plus c'était très très peu inclusif. Notamment en France, et franchement, tu vois, je suis contente hein, moi depuis un an et demi de partager le processus, mais il y a un an et demi, tu voyais même pas des campagnes avec des femmes qui font du 40 comme aujourd'hui on peut le voir. Bon, de toute façon, je m'en fous, vu que pour moi même faire du 40 c'est pas assez, faire que ça, mais en tout cas vraiment il y avait ce problème de montrer que des femmes très minces, et il y a aucun problème à être très mince, mais il y a aucun problème à faire du 48 ou du 52, et du coup voilà, je me suis dit, en fait j'avais cette réalisation. Mais je me suis censurée pendant au moins un an à me dire non mais Louise, t'as fait Sciences Po, t'as pas fait du tout une école de mode, tu as pas créé une école de mode.
Ah ouais, c'était un vrai sujet ça.
Ah ouais, c'était un vrai sujet, ouais.
C'est fou ça.
Je me suis dit mais j'ai pas du tout les compétences. Enfin vraiment, j'ai pris genre le truc, je peux faire 10 000 boîtes, j'ai pris le truc pour lequel je peux pas le faire. Enfin tu vois moi...
t'es une femme déjà, enfin tu portes de la lingerie, c'est déjà
oui,
pas mal.
Oui, je porte de la lingerie, c'est clair, mais si tu veux, j'aurais préféré moi commencer par un truc que je peux faire toute seule, dans le sens où ça permet de grandir. Bon, après, heureusement, je gagnais ma vie, donc j'ai pu, en fait, embaucher, tu vois, une styliste en freelance. Mais c'est vrai que la marque de lingerie, tu peux vraiment très, très peu la faire seule. Enfin, il y en a qui se lancent seuls, c'est chaud, quoi. Faut que tu aies des compétences. Tu fais rien seul, mais enfin, par exemple, mon média, entre guillemets, je l'ai fondé seul et je suis restée seule pendant longtemps. Donc, il y a ce truc un peu où, en soi, je connais pas mal de gens qui ont lancé leur boîte le tout début, hein, seul, chez eux, pendant, au moins quelques mois. Et après, il y a des gens qui s'embarquent, mais...
Bien sûr.
Mais ça, c'était pas possible, donc ça m'a bloqué pendant pas mal de temps. Aussi parce que je me rendais compte de ce que ça allait représenter en termes de temps, d'investissement. Je te disais, je revenais de Berkeley en mode, j'ai pas envie d'être start-upeuse, tu vois. Donc, je me disais, comment je pourrais créer une marque sans forcément m'y perdre il y avait un podcast intéressant que t'as fait pendant le confinement, comment ne pas devenir esclave de sa boîte.
Tu vois,
c'est vraiment de ça que j'avais peur. Et en fait, bref, au bout d'un an, je me rendais compte que l'idée me trottait trop dans la tête. J'avais cette période-là où j'avais besoin d'un nouveau projet. Sur les réseaux, je crois que j'avais coché toutes les cases. Donc je me suis dit, bon, bah, vas-y, on y va. Je vais prendre le parti d'annoncer la marque avant même de la lancer. Donc, je l'ai annoncé en septembre 2019.
Pourquoi ce parti pris ? C'est parce que c'est quand même vachement intelligent de faire ça. Tu teases les gens pendant un an et demi et tu les embarques dans le... Dans le process, c'est le meilleur moyen quand même de lancer une marque aujourd'hui.
Ben, écoute, je sais pas, moi, c'était vraiment pas ma réflexion. Ma réflexion, c'était vraiment, je n'ai pas envie de lancer un produit qui ne répondra pas à un besoin.
Ouais.
Et qui mieux que toutes les femmes qui me suivent pour me dire ce dont elles ont besoin. Donc pour moi, c'était logique. Surtout que, je t'avoue qu'à l'époque, je pensais que je lancerais pour Noël de la même année. Donc je pensais que septembre 2019, décembre 2019. Donc je m'étais dit, j'avoue, c'est sympa, je tease un peu avant le lancement. Mais si jamais j'avais su qu'un an et quart, presque et demi, après avoir commencé à travailler dessus, parce qu'en vrai, j'ai commencé à travailler en août 2019 dessus, voire juillet, je me souviens, juillet, j'avais défilé au salon de la lingerie pour le salon de la lingerie. Il faisait un défilé body positive. Et du coup, je savais déjà que je voulais lancer une marque. Et du coup, j'étais allée à Interfilière en face. Tu sais, c'était l'autre salon, juste pour aller voir les fournisseurs. Mais en fait, j'étais comme un poisson hors de l'eau. Tu sais, j'étais là, genre, je prenais des notes. Je connaissais pas du tout le milieu, donc voilà. Mais donc bref, ça pour dire que si jamais j'avais su que un an et demi plus tard la marque ne serait pas lancée, je pense pas que je l'aurais annoncée aussitôt. En fait, au bout d'un moment, je me serais dit, les gens vont en avoir marre.
Ça
tu leur en parles depuis un an et demi, et le truc ne sort pas. Enfin, franchement, moi, pendant le confinement, j'étais pas bien. Je me suis dit, mais putain, est-ce que les gens sont encore là un an et demi après, quoi?
Et alors, ils sont toujours là?
Bah écoute, d'après ce que je vois, ouais, au moins, on pourra pas dire que j'ai pas pris le temps de faire les choses bien.
Ouais. Mais qu'est-ce qui est si long? Pourquoi à quoi t'as été confronté? Ouais. Raconte-nous ces différentes embauches.
Ouais. Bah du coup, bah typique, tu vois, donc j'ai d'abord commencé à travailler avec une styliste en freelance.
Donc,
j'avais
la première
vraiment...
chose que t'as fait, c'est de commencer à travailler sur le produit. T'as quand même demandé aux gens ce qu'ils voulaient.
Oui, oui, j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué le projet. J'ai expliqué moi ce que je pensais faire, mais je leur ai dit. Bah vous, c'est quoi le problème aujourd'hui quand vous achetez des sous-vêtements?
Et ça, c'est quoi? Sous forme de questionnaire?
Ouais, exactement. Okay. Un gros questionnaire. Tu sais, les gens ils disent faut pas mettre trop de questions. Moi, j'en avais rien à foutre. J'ai mis genre 8 questions. J'ai dit ouais, détailler le plus possible et tout. Ouais. Ce que je peux me permettre de faire, je pense, parce que je suis créatrice de contenu. Donc, les gens avaient des choses à dire. Oui. Et ce qui est vachement ressorti, c'est alors vraiment le problème pour la taille. Donc, toutes les filles qui ont des tailles. Entre guillemets, il n'y a même pas de. C'est juste si jamais tu fais pas une taille qui
36-38, c'est
qui
mort.
Est considérée comme standard, tu galères à trouver un soutif. Donc il y avait déjà ça, le fait que les soutifs étaient toujours inconfortables. Bah, en fait, c'est les armatures. Enfin, je veux dire, je sais pas pourquoi on a inventé ça. Si, on l'a inventé parce que ça fait de beaux seins et que ça maintient bien, mais c'est hyper inconfortable. Ça gratte si c'est de la dentelle. Vraiment le problème de confort en premier, avec le problème de trouver sa taille. Et après, il y avait quand même des gens aussi qui me disaient, c'est vrai que moi, niveau éthique, je trouve pas grand-chose, donc je pourrais pas porter de soutif. Donc voilà, au moins, ça confirmait vraiment ce que je me disais. Après, il y a des trucs que j'ai quand même changé, parce que au-delà des sondages, je voulais quand même vraiment rencontrer ma communauté. Donc j'ai fait plusieurs sessions de rencontres, des brainstorms. Après, j'ai fait des essayages pour être sûr que ça allait à toutes les morphos, etc. Mais pendant le brainstorm, j'ai vraiment... essayer de décortiquer avec elles le plus possible leurs attentes. Et tu vois, moi, l'idée, c'était de faire un truc vraiment sans couture, genre sans aucun ajout de produit, de machin. Voilà, vraiment seamless. Et en fait, j'ai demandé... du coup, moi, je voulais pas faire d'agrafe et pas de réglet pour les bretelles. Et donc, j'ai demandé si ça dérange de pas avoir d'agrafe derrière. Bon, t'avais peut-être... 30% qui a levé la main, tu vois, ou 40%, donc c'était bon. Je me suis dit, moi, je vais aller jusqu'au bout de mon idée, j'ai pas envie d'agrafe, je trouve ça chiant, c'est toujours la galérie à trouver le bon réglet et tout. Et après, j'ai demandé pour les bretelles, mais donc combien d'entre vous ça dérangerait de pas avoir le réglet des bretelles? 90% des filles lèvent la main. Et je me dis, ah, ok. Et donc là, typique, tu vois, j'ai vraiment dû réfléchir et me dire, est-ce que je les écoute? Est-ce que je vais au bout de mon idée? Parce que ça se trouve, ça va être révolutionnaire. Enfin, j'exagère, tu vois, mais il y avait un peu ce questionnement. Et au final, j'ai décidé de les écouter parce que déjà, c'était le but du projet et parce que j'ai vu aussi leur point de vue, quoi. C'est... En fait, ça permet aussi d'être inclusif parce que du coup, on n'a pas tous la même taille d'épaule, de buste, de machin. Donc, ça permet de jouer là-dessus. Au-delà du fait que l'ensemble est très stretch et peut s'adapter à beaucoup de morphologies... ça a joué, donc voilà, beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges. J'ai fait toute une série sur YouTube, en fait, qui s'appelle « Étudiant entrepreneur ».
Ouais.
Donc, je crois, là, 7 épisodes, 7 ou 8. Donc, une fois toutes les 6 semaines, à peu près, je faisais une vidéo sur les avancées, sur les galères. Et pour revenir à ce que tu me demandais, pourquoi j'ai galéré, mais on a tellement galéré, parce qu'en fait, ma styliste, elle n'avait jamais bossé dans la lingerie. Avec leur cul, j'ai vraiment pris des risques. Mes yeux, elle avait un très beau parcours. J'avais eu un très bon feeling avec elle. Je sentais que c'était une meuf qui allait se donner et qui avait des, qui pouvait relever le challenge. Et en plus, comme je t'ai dit, des sous-vêtements sans couture, c'était pas de la corsetterie, tu vois, où t'as besoin d'avoir vraiment une expertise dans la lingerie. Et du coup, elle m'avait dit, vu que c'était vraiment plus l'experte produit, elle m'avait dit, faudrait qu'on fasse du seamless. Donc la technique vraiment de tricotage, tu vois. Donc on est parti sur cette piste-là à la base. Plein de gens ne font pas de tricotage. Donc en fait, on a peut-être perdu déjà 6 semaines à contacter des usines de tricotage pour soit pas avoir de réponse, pour soit qu'ils nous disent que eux leur machine s'arrêtait à une certaine taille, donc ils pouvaient pas aller jusqu'à une certaine taille.
Jauge, ouais.
Donc moi, j'allais pas faire de sacrifice sur l'inclusivité. Donc on a finalement trouvé 2 usines au Portugal. Je crois que le destin joue parce que le jour où je devais aller voir les usines au Portugal... je suis arrivée à l'aéroport sans mon passeport.
Championne.
Et non, pour les gens qui me demandent, je n'ai pas le permis, ni de carte d'identité, donc j'avais rien. Mais bon, avec le recul, c'était un signe du destin, quoi, parce qu'en fait, on a fait un proto avec eux, c'était la catastrophe, donc déjà déprime totale au bout de 3 mois quand t'as un proto qui ressemble à rien, et t'es là bon. Et en fait, là, je me suis dit, bon, on va travailler avec une chef de produit en freelance, que ma styliste se rendait compte des limites de son champ de compétences. Et en fait, c'est notre chef de produit qui nous a dit « Non, faut faire du coupé cousu, mais essayer de trouver une usine qui fait des bords francs ou du thermocollage. » Et alors, shout out à une abonnée qui m'a envoyé un mail après avoir vu un épisode des Temps Entrepreneurs, en me donnant le nom du coup de cette usine qui s'appelle Art Martin, qui fait du thermocollage et qui du coup est spécialisée dans les sous-vêtements sans couture en coupé cousu. Donc révélation, on s'est rencontrés d'abord une première fois sur le salon de la lingerie en janvier, on a commencé à avancer avec eux, mais tu sais, il y a vraiment ce truc au début, on ne te prend pas au sérieux en fait. T'es personne, ta marque elle n'existe pas, êtes deux dans le projet.
T'as beau avoir 400 000 followers sur Instagram, personne ne te prend au sérieux quoi.
Alors j'ai eu de la chance parce que en tout cas, le directeur de cette usine, il se rendait compte que ça signifie quelque chose. Mais il a fallu plusieurs échanges, plusieurs appels.
Comment tu vendais d'ailleurs ? Tu disais, voilà, je suis Louise Aubry. Comment on dit d'ailleurs ? C'est Aubry ou...
Aubery.
Aubery.
Ouais, il n'y a pas d'accent, mais c'est Aubery.
Pardon.
Bah, non, mais pas de souci. Comment
Ouais. Comment tu le vends ? Tu dis, voilà, tu arrives avec ton PDF, voilà ma vision, etc.
Ouais.
En plus, c'est un milieu qui est hyper sexiste, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Moi, je vois quand je suis avec Alice sur les salons. Quand Alice elle est toute seule, les mecs ils la regardent même pas, tu vois. Et quand je suis là, ils me parlent qu'à moi, tu vois. C'est insupportable. Mais alors toi, toute seule, l'enfer.
Dieu de mes 23 ans. Bah écoute, on avait déjà un plan de collection, donc voilà, on avait quand même ça à leur envoyer. Moi, je disais que voilà, je m'appelais Louise Aubery, j'avais 23 ans, j'étais créatrice de contenu, que j'ai co-créé, enfin que je co-créais une marque avec ma communauté, que du coup, bah à l'époque, je pense, il y a plus de 250 000 personnes à qui cette marque allait s'adresser. Et au final, bon bah eux, c'est aussi un business, donc ils t'envoient un devis. Et si jamais tu peux payer les tarifs de développement, qui étaient franchement assez élevés, au final, on a quand même commencé à bosser avec eux, du coup. Mais après, là, en fait, j'en parle, mais on a commencé à bosser en mars 2020. Février 2020, mars 2020.
Ouais.
Alors que moi, je bossais dessus depuis août 2019. Donc déjà, tout ce temps perdu, entre guillemets,
pour trouver
une usine qui fait... En fait, la difficulté, elle est venue de l'exigence technique du sans-couture, du fait qu'on voulait que ce soit une matière éco-responsable. Parce que,
c'est quoi une matière éco-responsable dans la lingerie ?
Une matière éco-responsable, pour moi, c'est les biopolymères. Donc c'est une famille de textiles, de fibres qui est vraiment, en fait, je crois que le terme c'est cradle to cradle, tu vois, où tu peux vraiment retourner du berceau au berceau. Donc en tout cas, nous, la matière qu'on a choisie, elle est biodégradable, donc c'est vraiment une nouvelle c'est un peu les nouvelles technologies des matières. C'est le plus éthique que tu puisses faire, ça demande très peu d'eau, aucun pesticide, aucune transformation chimique comme c'est le cas du polyamide. Moi, je ne savais pas que le polyamide, c'est un dérivé du pétrole, par exemple.
Ouais.
Tu vois, c'est vraiment... Et c'est ça aussi, j'essaie d'éduquer pas mal ma communauté sur la mode responsable parce que, en fait, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas que le coton, il y a énormément de pesticides et que même quand il est bio, ça demande énormément d'eau. Donc moi, j'ai vraiment... c'est aussi... c'est un avantage comme un inconvénient. Mais comme je débarquais, j'étais hyper exigeante. Du coup, j'étais là, non, moi je veux vraiment la matière la plus responsable qui soit, mais je veux aussi les ensembles qui soient les plus confortables possibles, et je veux qu'on s'adresse à toutes les tailles, et je veux qu'on soit accessible. Donc, tout le projet, ça a été essayer de cocher toutes ces cases en faisant quelques stretchs, on va dire. En fait, le plus gros stretch que j'ai fait, c'est sur la durée, quoi, le temps de développement, parce que la matière, on n'a pas fait de concession, on utilise de l'Evo, donc c'est un dérivé de la plante du ricin. Pour les personnes qui nous écoutent, jamais vous connaissez l'huile de ricin, non, ça ne sert pas qu'à faire pousser les cheveux ou les cils. C'est aussi une matière, c'est un biopolymère en fait.
Donc l'Evo,
EVO.
Okay.
Donc on a trouvé cette matière, donc on l'a sourcée, on a avancé avec le fournisseur. Après, donc on a avancé avec Art Martin pour le thermocollage, on a envoyé notre dossier technique. Il y avait une vraie question parce que comme tu te doutes que quand t'es une marque qui commence, tu peux pas faire du 70A au 115G. Je crois qu'on a calculé, ça faisait genre 75 références. Enfin, c'est pas possible du tout. Donc, de toute façon, moi, je trouve ça un peu absurde parce que d'une marque à l'autre, tu tailleras jamais de la même façon. Donc, on a décidé de faire notre propre système de taille qu'on a totalement renommé avec l'aide de ma communauté. Parce que je trouve que c'est très réducteur de dire qu'on fait genre 38, du 40. Enfin, ça veut vraiment rien dire, un chiffre. Et du coup, nous avons donc cette taille exquise, sublime, lumineuse, magnifique. Non, je me suis trompée, pardon. Exquise, sublime, magnifique, lumineuse, extraordinaire, exceptionnelle et épatante.
Okay. Donc, épatante étant la plus grande
taille.
La plus
taille. En fait, moi, je voulais qu'on retrouve quand même un indicateur, tu vois, dans le nom. Donc, exquise, t'as XS, sublime, S, magnifique, M, etc.
Ouais.
C'était un peu plus dur. En fait, on a quasiment réussi. Sauf pour la dernière. En fait, à la base, on voulait faire 6 tailles. c'était déjà un gros enjeu, tu vois. Généralement, les marques, elles se lancent, elles font juste SML. Mais en fait, en faisant les essayages, du coup, une fois qu'on a reçu les prototypes, qu'on les a validés, qu'on a fait l'étape de gradation, la gradation, du coup, là, tu fais dans toutes les tailles que tu souhaites faire et tu dois essayer pour voir si ça va. Moi, je voulais le faire avec ma communauté hein, pour m'assurer que ça leur allait et que personne n'était laissé de côté. Et il y avait Cindy qui est venue aux essayages, qui faisait du 110F. Elle était trop serrée dans la dernière taille. Du coup, on a réfléchi parce que ça allait nous prendre encore plus de temps de faire une septième taille. Ça allait nous coûter plus cher. Mais je me suis dit que moi, je ne voulais pas faire de concessions là-dessus. Et au final, c'est les plus grosses poitrines qui ont le plus besoin des ensembles sans couture, qui soient confortables et qui maintiennent. Donc, on a fait une septième taille. Okay. Mais donc, voilà. Tout ça a pris vraiment beaucoup de temps. Ouais. Déjà, donc, on commence à bosser avec eux en février. Covid, mars. Usine à l'arrêt, 2 mois total. Ouais. Personne n'a bossé. C'est-à-dire que je crois qu'ils avaient une usine qui tournait juste pour les marques qu'ils avaient déjà pour produire. Mais nous, le centre de développement, c'est-à-dire, parce qu'il y a tout le travail de développement pour former les modèles, c'était à l'arrêt total. Donc en fait, ils ont recommencé à travailler dessus en juin. On est allé les voir en juin, on a fait les premiers essayages des protos. Moi, j'étais hyper... Enfin, vraiment, à chaque fois, j'étais trop optimiste. À la base, je voulais lancer en décembre 2019.
Ouais.
Après, je me suis dit, on va lancer pour l'été. Il y a eu le Covid, donc je me suis dit on va lancer à la rentrée.
Oui.
Et là, normalement, on lance bel et bien juste avant Noël. Donc, mais voilà, ça a vraiment été à chaque fois repoussé, parce que c'est vrai qu'il y a toujours plus d'aller-retour que ce que tu penses. Tu vois, les modélistes, ils nous le disaient dans le bureau d'études, ils me disaient, moi je comptais un aller-retour en me disant, non, vous nous envoyez le proto, on vous fait nos retours, et le deuxième, il sera bon. En fait, non, le deuxième, tu le reçois, il y a encore quelques trucs qui vont pas, tu le renvoies, puis en fait, il te le renvoie, il y a encore quelques trucs qui vont pas. Et au final, je crois qu'on a fait 3 allers-retours pour les photos et 3 allers-retours pour la gradation. Donc, tout ça prend du temps, ouais.
Et les premiers retours sur les essayages, quels sont-ils ?
Écoute, je suis vraiment très contente parce qu'elles ont tout dit, c'est dingue, on est tellement bien dedans, genre, on veut pas l'enlever. Et moi, c'était vraiment l'enjeu, genre... Sur notre packaging, quand on va les ensembles, ce sera marqué attention à l'intérieur de ce colis contiennent des sous-vêtements qu'on n'a pas envie d'enlever. Parce que, enfin voilà, les meufs qui m'écoutent, vous-même, vous savez quoi, dès qu'on arrive chez nous, la première chose qu'on veut faire, c'est enlever notre soutif parce que c'est inconfortable. Donc, ça, j'étais hyper heureuse. Le côté, la matière est hyper agréable. Tu vois, parce que c'est une matière un peu. Alors, j'ai pas encore tout le jargon, mais tu vois, c'est pas comme du coton ou du polyamide. Où c'est un peu... Enfin, ça a une texture plus qui se rapproche de pyjama, si je grossis les traits.
Ouais.
Nous, ça se rapproche un peu plus du maillot.
D'accord.
Donc, c'est très, très doux, enfin, très confortable. C'est comme vraiment une seconde peau, tout en apportant un maintien qui est plus important que la plupart des marques qui font des ensembles de seconde peau où, généralement, ça maintient rien, tu vois, c'est juste du confort. C'est hyper flatteur, donc ça, on est vraiment contente. Et c'est vrai qu'on a vraiment, vraiment essayé de travailler la coupe. Parce que, genre, pour les tailles basses, les culottes, ça tombe jamais au bon endroit.
Ouais.
Genre ça cisaille toujours les poignées d'amour, ou ça arrive trop, ou ça arrive trop bas. Enfin, nous on a vraiment bossé ça à fond pour que ce soit à la fois confortable et à la fois flatteur. Donc parce que le but c'est aussi de se sentir bien quoi.
Ouais,
parce qu'on a un modèle taille haute et un modèle taille basse.
D'accord. Et vous avez fait, c'est que des culottes, hein. C'est pas de string, pas de...
Ah oui, pardon, il y a soutien-gorge et culotte, ouais.
Soutien-gorge et culotte.
Ouais.
Et en forme de culotte, c'est taille haute, taille basse et...
Tanga.
Tanga.
Ouais.
Le tanga, c'est quoi déjà ?
Le tanga, en gros, c'est, si tu veux, c'est pas une culotte trop couvrante parce qu'on trouvait que c'était pas flatteur pour les fesses.
Ouais.
C'est pas string parce que le string, c'est beau, mais c'est inconfortable. C'est un entre-deux.
D'accord.
Par contre, les Brésiliens... Enfin, en fait, on a demandé là aussi à ma communauté, j'ai fait un sondage. Vous préférez quoi ? String, tanga, culotte ou shorty ? Et en fait, ce qui est le plus revenu, c'était tanga, genre de loin. Et suivi après, quasiment ex aequo, par culotte et string. Et donc, en fait, on s'est posé la question, est-ce que du coup, on fait un modèle culotte quand même pour les filles qui veulent des culottes ? Ou est-ce qu'on fait deux tangas ? En fait, là aussi, c'est toujours quand même, tu vois, pour dire, il faut écouter les gens, mais il faut aussi s'écouter soi. Moi, je voulais vraiment que ce soit des ensembles flatteurs. Parce que mon but avec cette marque, c'est de prouver qu'on peut faire des ensembles flatteurs et confortables. Et donc, voilà, pour être flatteur, c'est vrai que vous verrez, si jamais vous allez voir après, dans mon dernier épisode d'Étudiants Entrepreneurs, je partage les modèles, donc on voit vraiment les coupes. C'est très échancré, mais parce que, vraiment, je dis souvent, moi, c'est la seule fois où je me suis vraiment sentie bonne devant un miroir, c'est avec un maillot de bain. Rarement avec un ensemble de lingerie, en fait. Parce que l'ensemble de lingerie peut être beau, mais en fait, il te met rarement hyper bien en valeur. Alors que les maillots, il y a ces coupes un peu plus franches. Y a, comme le maillot, on sait qu'il va le porter à l'extérieur, il y a plus cette réflexion de coupe, d'essayer de mettre en valeur le corps et tout. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas ça avec les sous-vêtements ? Et du coup, voilà, pour vraiment remplir ce pari, pour relever ce pari, on a choisi la coupe Tanga pour les deux modèles, avec des coupes assez jancrées devant, enfin surtout pour la taille haute, moins pour la taille basse, comme ça il y a quand même le choix pour celles qui préfèrent. Mmh. Et avec deux modèles de soutien-gorge aussi, un modèle plus droit et un modèle plus décolleté. Et c'est marrant parce qu'on pensait que le modèle décolleté allait être celui un peu pour les grosses poitrines, parce qu'il est un peu plus englobant. Et en fait, bah c'est notamment grâce à ma sœur jumelle qui a essayé les prototypes en avant-première, vu qu'elle, elle fait un bon 85D, donc tu vois, une taille bien relou dans le commerce normalement. J'arrêtais pas de lui faire essayer le modèle décolleté, et elle aimait bien, mais elle me disait quand même, le maintien, bah c'est pas ouf quoi. Donc moi, j'étais un peu en PLS, et en fait, à un moment, je sais pas pourquoi, elle a pris l'autre proto, mais sans même que je lui donne. Et elle m'a dit, non mais là, c'est the one, je ne le quitte plus, en fait, le modèle. Donc, c'est le modèle, je crois, May Alcott, il s'appellera comme ça sur le site. C'est en fait le meilleur pour les grosses poitrines. Il englobe, en fait, vu qu'il est droit, il maintient vachement bien les seins.
Trop bien. Excellent. Et comment t'as fixé les prix de ces bestioles ?
Bah écoute, c'est marrant que t'en parles parce que ce matin encore, je faisais la partie du site où en fait on va expliquer nos prix, d'où ils viennent, enfin pourquoi ce prix et tous les coûts qu'on a. On va être 100% transparent. Bah du coup, on a fait par rapport au prix de production, par rapport au prix de la matière, par rapport au prix de la logistique, par rapport au prix du packaging, par rapport au prix de la TVA. J'ai un peu le seum quand j'ai vu tout ce qu'on devait donner à l'État.
On donne quoi, 20% ?
Ouais, 20%.
Ouais.
Mais franchement, tu vois, sur une culotte, ça fait beaucoup, quoi.
Ça fait, ouais, c'est beaucoup, 20%.
Et du coup, bah, après, par rapport à notre marge, en fait, moi, si tu veux, j'ai rencontré plusieurs fondateurs de marques. Mmh. Et je crois qu'ils m'ont, de marques éthiques, pour la plupart, ils m'ont dit, il faut que tu fasses à peu près x3 pour t'en sortir. Mmh. Genre, c'est la marge un peu minimum.
x3, mais par rapport à quoi ?
Bah, pour ton prix de revient, quoi.
Ouais.
Ouais, faut que t'arrives à faire une marge.
Le prix de revient, c'est quoi ? C'est le où t'as tous les coûts, livrée, plateforme de logistique, avant d'être envoyé à ton client. Ou tu inclus aussi la livraison est en plus. Comment t'as fait ça ?
Alors, ça, c'est une bonne question, parce que je pense qu'on a fait par rapport au prix, enfin, tout ce que ça nous coûte, en fait. Mm. Tout ce que ça nous coûte, et en fait, pour te dire, au final, on fait que x2,5, parce que, en fait, moi, j'avais vraiment pas envie de me dire, je veux m'adresser à toutes les femmes riches. Enfin, tu vois, c'était horrible. Genre, en mode, t'as ton claim, tu veux t'adresser à toutes les femmes, tous les corps, mais c'est que celles qui peuvent se le permettre.
C'est toutes les femmes, tous les corps, mais riches.
Bah, en fait, c'est ce que je voulais pas, tu vois.
Bah ouais, c'est horrible.
Parce que, après, en plus, dans la lingerie, ça peut monter assez haut, tu vois. Donc, moi, je voulais vraiment que l'ensemble soit à moins de 100 euros.
Ouais.
Que me dire, bon, bah, ok, c'est peut-être un investissement, mais je sais qu'en tout cas, les filles qui m'écrivent, tu vois, il y en a trop mignonnes qui me disent qu'en fait, elles ont arrêté d'acheter, genre, tu vois, chez H&M, des sous-vêtements et tout, depuis que j'ai annoncé l'ensemble de je ne sais quoi. Et en fait, depuis qu'elles ont du coup mis cet argent de côté, là, elles ont assez pour s'acheter deux ensembles, tu vois. Et ça me fait plaisir, en fait, c'est vraiment cette logique de se dire, ben.
Moi, mais mieux.
Oui, c'est vrai que l'ensemble. En fait, au final, on va, comme on fait que x2,5, ça va être vraiment accessible. Hein. Je crois là, les prix finaux qu'on s'est dit, c'est 24 euros la culotte et 48 euros le soutien-gorge. Donc l'ensemble est même à moins de 75 euros, tu vois. Donc c'est même mieux que ce que je voulais à la base. Mais parce que moi, j'ai préféré me dire. Je préfère qu'on se fasse une moins grande marge. Tant pis, on essaiera. Avec le volume en grandissant, d'amortir. Mais pour l'instant, le seul but qu'on a, c'est de s'adresser au plus de femmes possible. Alors oui, on ne pourra jamais être à 5 euros parce qu'en fait, on paye bien nos travailleurs et c'est fait de manière raisonnée et responsable. Mais je n'ai pas non plus envie de faire comme en fait, la plupart des marques de lingerie qui se font x6 ou x7. Parce que voilà, nous, on a la chance d'être indépendants. Donc pour l'instant, on peut se permettre.
Ouais. Tu ne veux pas être revendu pour l'instant, ça sera uniquement sur ton site web, etc.
Ouais, c'est ouais pour l'instant, on fait direct.
Une durée durée.
Ouais.
Et donc, c'est fabriqué au Portugal, c'est ça hein?
Alors, en fait, le centre de développement est en France, d'Art Martin. Et après, Art Martin, eux, ont leurs usines dans le sud de l'Espagne et le nord de la Tunisie.
D'accord.
Donc, tout est à moins de 1000 km. Et ça, j'ai trouvé ça cool aussi, parce que c'est qu'on ne se rend pas compte, en fait, quand on démarre tout ce que tu vas devoir aller chercher pour que tu aies ton produit final. Et en fait, c'est un vrai enjeu que tout, de A à Z, toute la chaîne de production, que ce soit la matière,
la matière,
elle est Italie. Brugnoli, c'est le fournisseur.
Brugnoli, tissé en Italie.
Ouais.
C'est le Avo, Evo.
Evo, ouais.
Très bien.
Donc voilà, on est vraiment content d'avoir pu avoir aussi ce, d'avoir pu faire dans un circuit le plus court possible, quoi, ouais. Parce que c'est pas gagné. Mm-hmm. Je sais pas si toi t'as galéré, t'avais cette envie aussi.
Oui, bah moi j'étais comme toi, hein. On veut tout faire tout bien.
Ouais.
Franchement, c'est dur.
Et encore toi, tu venais un peu de la mode. T'avais quelques expériences.
J'avais ce podcast, ouais. j'avais quelques expériences, j'avais 2-3. Et aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de designers grâce à ce réseau qu'on s'est fait avant, tu vois.
Ouais.
Et ça aide énormément et ça t'ouvre beaucoup de portes sur les fabricants, etc.
Ouais.
Mais ça reste un casse-tête parce que c'est une industrie qui on le sait tous, hein, tous ceux qui écoutent ce podcast, qui travaillent dans cette industrie, savent que l'industrie est encore très très loin derrière entre ce que veulent les consommateurs et ce à quoi on aspire nous et la réalité du terrain et des fabricants. Il y a encore un long chemin à parcourir. Moi j'aimerais qu'on parle de branding. Qu'est-ce que tu as mis, c'est quoi les valeurs, qu'est-ce qu'on achète quand on achète un produit je ne sais quoi?
Pour moi, c'est l'ensemble de sous-vêtements où tu n'as plus à faire de compromis. Tu n'as plus à faire de compromis sur le confort, tu n'as plus à faire de compromis sur l'esthétique, tu n'as plus à faire de compromis sur la durabilité du produit et tu n'as plus de compromis à faire sur l'inclusivité. Moi, c'était vraiment ça, les 4 cases. Tu vois, j'ai pas surréfléchi le truc, quoi. Je me suis pas dit, viens, on va inscrire les valeurs de la marque sur une feuille et tout. Enfin, d'ailleurs, c'est très bien aussi de le faire. Mais pour moi, c'était vraiment une évidence. J'ai envie de créer la marque où t'as plus de sous-vêtements, où t'as plus à faire de compromis. Et en fait, on peut enfin cocher toutes les cases.
Ouais, ouais. La distribution, donc, ce sera uniquement en direct.
Ouais.
Vous allez produire du stock, vous allez faire de la précommande. Comment vous fonctionnez?
Alors, je voulais faire la précommande parce que c'est aussi la manière la plus simple de produire en soi. Hein. Tu produis vraiment le stock le plus juste possible. Et puis après, on m'a annoncé les délais de production auxquels doivent s'ajouter les délais de la matière.
Ouais.
Parce qu'en fait, tant que tu n'as pas toutes tes commandes, tu ne peux pas commander ta matière vu que tu ne sais pas de combien de mètres tu vas avoir besoin. Et du coup, vu que on avait déjà un an dans les dents de développement, je me suis dit, bon, à un moment, il va falloir faire un compromis, tu vois. Et du coup, j'ai choisi de commander la matière avant.
D'accord.
Donc, je voulais pas trop me pencher sur combien on allait vendre, tout ça, parce que pareil, encore une fois, moi, je suis vraiment pas très chiffre. Je trouve ça un peu anxiogène, en fait, parce que j'ai peur après d'être déçu. Enfin, bon, au final, écoute, je m'en mettrai. Hein. Dans tous les cas, le but, c'est juste de plaire et d'essayer de s'adresser à toutes ces femmes qui ont besoin de ces sous-vêtements. Mais du coup, on s'est quand même penché un peu dessus avec ma sœur, qui aime plus les maths que moi, et d'évaluer combien, à peu près, on pensait vendre d'ensemble. Combien moi aussi je pouvais mettre dans la matière, parce que en fait c'est 100% autofinancé par Bibi, donc il y avait ça aussi. Et du coup on a commandé les 4 rouleaux de matière dans chaque couleur, parce qu'il y a 4 couleurs, je l'ai même pas dit. On a noir, bordeaux, pêche et lilas. Et donc j'ai commandé les 4 rouleaux de matière, parce que donc il y avait 6 à 8 semaines aussi de prod pour la matière. Donc là elle est en cours. Pour tout te dire, en fait, les têtes de série sont lancées cette semaine. Et du coup, on va faire une précommande hybride, c'est-à-dire qu'on va commencer un peu la prod avant sur les tailles qui sont les plus commandées. Aussi parce que j'ai le feedback de ma communauté qui a déjà rempli pas mal, tu vois, de sondages avec leurs tailles, etc. Et pendant le lancement, en fait, après le lancement officiel, quand on aura les vraies commandes, on ajustera avec l'usine en mode maintenant il reste tout ça à produire. Donc en gros, on commence à produire un peu les tailles qui sont les plus commandées. Et comme j'ai vraiment pas envie de faire de sacrifice là-dessus, toutes les tailles dans tous les cas seront adressées et on réajuste si tu veux après la première semaine le nombre de commandes et dans quel modèle, dans quelle taille, dans quelle couleur.
Tu vas en vendre combien, tu penses? Moi, j'ai un peu l'impression, alors t'es pas Rihanna, mais quand même, quand t'as 400 000 followers, enfin, t'as une communauté de dingue, quoi. Donc, potentiellement, tu peux en vendre des dizaines de milliers.
Écoute, moi, je sais pas. Déjà, je suis pas suivie que par des personnes en France. Tu sais, comme j'ai commencé à partager en anglais, mais d'ailleurs, j'ai encore une communauté assez internationale. Donc, on a pris ça en compte. On a pris en compte le fait qu'il n'y a pas que des femmes. J'ai majoritairement des femmes, mais il y a aussi des hommes. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de sous-vêtements. Enfin, tu vois, sous-vêtements, c'est pas non plus... Enfin, tu vois, typique, moi, je m'étais dit, dommage... Enfin, un moment, quand ça, tu vois, dans les moments difficiles, tu dois connaître ces moments-là. Tu te dis, mais pourquoi j'ai pas lancé, des dentifrices? Mais tu vois, le dentifrice, c'est un très bon produit, en soi, si tu veux lancer un business, parce que t'en as besoin toutes les semaines tous les mois.
Mais la culotte aussi, c'est inconsommable.
Ouais, mais en vrai, moi, typique, ça fait 3 ans que je peux acheter de culotte. Ni de soutif.
Ouais. Est-ce que tu n'avais pas trouvé la culotte?
Ouais, ouais, mais donc, en soi, je m'en satisfaisais, entre guillemets, tu vois. Si ton poids bouge pas trop, que tu as tes bonnes vieilles culottes qui durent, c'est pas un produit dont tu as besoin comme tu as besoin d'un dentifrice, tu vois. Donc, y a ça aussi. C'est pas non plus un t-shirt qui s'achète très facilement. Donc, bref, moi, j'ai commandé de quoi produire 10 000 pièces, donc 5 000 ensemble. Donc en fait, c'est une édition limitée.
Ouais, c'est une édition.
C'est ça,
très
la réalité.
Limitée.
C'est ouais. Bah, j'en sais rien. Moi, ça me paraît quand même beaucoup, tu vois.
Moi, je parie que tu vas tout vendre en 2 heures.
Non, arrête. Me dis pas ça. Ça, c'est anxiogène, tu vois.
Ah ouais.
Ouais. Enfin, bah, en soi, je c'est pas grave. Mais moi, je préfère toujours me dire. Enfin, tu vois, même Sciences Po, je me persuadais que je l'aurais pas. Enfin, j'ai tout donné. Mais après l'oral, je me mettais pas dans la tête que je l'aurais parce que je préfère toujours être hyper heureuse que déçue. Donc là je pourrais me dire ben on va pas tout vendre, ouais. C'est pas grave,
on
je garderai non mais
3.
Tu vois, je garderai du stock pour une prochaine, enfin voilà, pour une prochaine édition.
Oui, de toute façon, oui,
voilà, c'est le but. Je m'en fous, moi, de en combien de temps, pourquoi, c'est si jamais ça parle à des femmes, tant mieux, et sinon tant pis. Mais c'est vrai que j'ai été je crois que ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est quand j'ai révélé les ensembles en couleur, mais genre il y a une semaine, hein. Il y a une semaine, vu qu'on a reçu les protos genre la veille du shooting à 20h, enfin vraiment le scénario de film. Et j'ai mis une story de ma sœur qui porte l'ensemble Bordeaux, taille haute et le modèle de la bralette droite. Et j'ai reçu, ouais, genre des centaines de messages de waouh, oh mon dieu, j'ai tellement hâte de l'acheter. Et vraiment, je m'y attendais pas.
Ouais.
Parce que voilà, c'est un certain type de sous-vêtement, c'est un design qui peut pas forcément à tout le monde. Mais de voir que ça, tu vois, que l'idée que t'avais dans ta tête depuis plus d'un an et demi
prend forme, ouais.
Prend forme et plaît, c'est hyper gratifiant.
Trop bien. Bah écoute, je te souhaite que ça soit un carton, en tout cas. Sur la DA, comment tu l'as pensée, comment tu l'as réfléchi, qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette direction artistique? Parce que t'es DA aussi, hein, de la marque.
Alors je suis DA, mais moi je pense que je suis peut-être un type d'actrice de la mode, hein, vu que tu reçois des acteurs et des actrices de la mode, atypique dans le sens où, bah, comme je te disais, j'ai pas fait d'école de mode, j'ai pas du tout de background créatif. Donc moi, j'ai plus peut-être ce truc de l'entrepreneur qui répond à un besoin que j'amène même dans le style des vêtements. Donc en fait, ma réflexion, c'était plus... J'avais plus, en gros, des critères en tête. Je veux que ce soit flatteur, je veux que ce soit confortable, je veux que ça aille à tous les morphos. Et donc après, ça a été des réflexions de coupes que moi, j'avais aimées, d'ensembles qui étaient particulièrement flatteurs, des échanges avec ma communauté, ce qu'elles aussi aimaient, ce qu'elles n'aimaient pas, pour dessiner au final l'ensemble qui correspond à tout ça. Donc c'est vrai que, tu vois, je ne peux pas te dire « je me suis balayée dans la rue et cette peinture m'a inspirée ». J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas, tu vois. C'est assez pragmatique comme façon de créer. C'est vraiment essayer de créer des ensembles où il n'y a pas de compromis à faire, mais où il y a quand même... tu vois, j'aime bien quand même aussi, tu vois, les couleurs, on les a vraiment réfléchies, quoi. Est-ce qu'elles vont bien ensemble? Est-ce que ça va à toutes les couleurs de peau? Moi, je sais que j'adore les couleurs, elles sont très profondes, tu vois, très vibrantes. Donc ça, c'est aussi qui me ressemble. Je voulais pas du froid, je voulais pas du basique, tu vois. Donc, c'est à chaque fois un peu un échange entre... ce que j'aime personnellement, ce que ma communauté apprécie et attend, et qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour que ça coche les cases qu'on a envie de cocher.
Trop bien. La logistique, tu vas te faire accompagner?
Ouais. On a mis en concurrence plusieurs acteurs de la logistique. Bon, pour le coup, c'est Oriane qui s'en est chargée, parce que voilà, typique, moi, c'est les trucs, disons, où c'est pas ce qui me donne le plus d'énergie. Et au final, on a trouvé, on n'a pas commencé, hein, je touche du bois, mais on a trouvé quelqu'un qui, je pense, peut être vraiment un super partenaire pour ça. Et on va faire un test, de toute façon, avec les têtes de série, là. Comme ça, pas de mauvaise surprise, j'espère, à la fin. Parce que ce qui me fait aussi peur, tu vois, c'est que typique, j'ai reçu Justine Hutto, moi, sur mon podcast. Elle, tout se passait très bien, jusqu'au lancement.
De Respire. Ouais.
Qui, en fait, eux, ils ont le problème, ils en ont commandé beaucoup trop, parce que c'était la précommande pure. Et du coup, ils ont été débordés, quoi. Donc, j'ai peur de...
Ouais, c'était la rançon du succès, quoi. Ils ont
Les délais étaient beaucoup plus longs. Donc, quand ils avaient signé, entre guillemets, les acheteurs pour recevoir leur DO 2 mois après, en fait, ça a été 3 ou 4 mois. Enfin, donc moi, j'ai peur, tu vois, de ce moment-là. Et c'est pour ça que, franchement, on n'en a pas parlé, c'est vrai, mais bon, là, ce qui est vraiment difficile pour moi, c'est les cours, en fait. Parce que moi, je pensais lancer ma marque en césure. En fait, pas du
c'est
tout.
C'est vrai qu'entre-temps...
Là, j'ai repris... C'est la loose. Là, je t'explique, pour après-demain, j'ai 2 exposés. C'est la loose. Donc, ouais, c'est assez chaud et je vais lancer genre 1 mois avant mes partiels, tu vois.
Mais t'es taré.
Mais j'ai pas eu le choix, c'est ça le truc.
Ouais. Et d'ailleurs, tes profs, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? T'en parles ou tu...
Ouais, bah heureusement, ma directrice de master est super cool. Elle soutient grave l'entrepreneuriat dans notre master et tout. Donc elle a été assez compréhensive, c'est ça. Et mes profs, cette année aussi, c'est plutôt cool parce que... plus t'avances, tu sais, plus tu te spécialises. Donc là, j'ai pris un peu que des cours par rapport aux réseaux sociaux, au branding, à l'entrepreneuriat. Et donc, en fait, au final, souvent, ils me font intervenir, limite, tu vois, dans les cours. Après, c'est particulier, tu sais, là, on est à distance. Hein. Moi, j'ai aucun cours en physique.
Oui, c'est vrai.
Donc, on est à l'écran, quoi. Donc, je t'avoue que je suis pas l'élève la plus assidue. Parfois, on parle, je merde, putain, qu'est-ce qu'ils viennent de dire. Mais j'essaye de faire au mieux parce qu'en plus, les cours sont intéressants, tu vois.
Ouais, c'est un peu frustrant parce que tu te dis, t'as envie de prendre le meilleur de Sciences Po, quoi.
Non, c'est très frustrant. Surtout là, en fait, d'avoir... En fait, si tu veux, j'étais vraiment partie en mode, vas-y, c'est ma dernière année, je vais la vivre à fond, je profite de la vie étudiante. Voilà, je te parle vraiment quand, en plus, je pensais que la marque serait lancée et tout. J'étais vraiment en mode, on va le faire sérieusement. Ouais. Non seulement la marque n'a pas été lancée pendant ma césure, et en plus, les cours ne sont pas en présentiel, mais à distance, en ligne. Donc en fait, c'est vachement moins stimulant, tu vois, on va pas se mentir. Donc en fait, malheureusement, je suis en train de faire ce que je voulais pas faire, c'est-à-dire faire d'autres choses en même temps, parce que j'ai trop de mails et trop de trucs à gérer. Donc au moins j'aurais terminé, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas la dernière année que j'imaginais.
Et tu penses, j'imagine que c'est vraiment trop tôt pour en parler, mais après la lingerie, tu veux vraiment faire que de la lingerie? Pour l'instant, la vision, c'est faire que de la lingerie, ou demain tu vas faire d'autres vêtements, ou tu vas faire de la beauté? Est-ce que tu vas ouvrir? Je pense que t'as ta petite idée, non, quand même.
En fait, moi, je crée pas une marque genre pour construire un empire. Le but, c'est vendre le plus de produits possible et tout. J'aime bien la cohérence, tu vois. Donc, je pense qu'on ne lancera jamais de manteau typique, tu vois. Genre, c'est trop éloigné. Après, comme je ne sais quoi, le but, c'est d'allier vraiment à chaque fois ce côté esthétique, confort, inclusif et éthique. Je me ferme pas à l'idée de faire du maillot de bain ou de faire du pyjama ou, tu vois, ce qui reste pour moi... ce qui reste cohérent avec la marque, qui reste pas des produits non plus trop compliqués, parce que je suis pas une marque de haute couture, tu vois, j'en ai conscience. Je veux justement un peu démocratiser la mode aussi, tu vois, et dire, tu vois, moi j'aime beaucoup, tu l'as reçu, ce que fait Julie et ce que font Julie et Guillaume de Loom. Je pense pas que non plus se revendique comme une marque de mode tendance, tu vois, c'est juste on veut répondre à un besoin, on veut créer des produits durables et bien faits. Moi, c'est un peu dans cette idée là en rajoutant le côté inclusif et le côté moi je me soutiens vraiment quand même du fait que au porté ça soit flatteur, tu vois, mais ouais, moi c'est plus cette idée là que j'ai, et voilà, comme je t'ai dit, je me ferme pas si dans 3 ans je suis prise d'amour pour je sais pas, imagine, je suis devenue moi aussi gourou de méditation, peut-être j'organiserai des retraites méditatives. J'en sais rien. Franchement, je me ferme pas de porte, mais je vais essayer d'y aller quand même un peu plus lentement.
Et dans la courte histoire de je ne sais quoi, qui n'est même pas encore née finalement, parce que là, elle est encore en pleine gestation, qu'est-ce que tu ferais différemment?
Alors, je pense que je demanderais plus conseil au début à des spécialistes, parce qu'on a quand même perdu beaucoup de temps sur cette idée de seamless, alors qu'en fait... au final, même, ça aurait été moche, le seamless. Le coupé cousu rend vraiment beaucoup mieux en termes de coupe. Qu'est-ce que j'aurais fait d'autre? Franchement, demander plus conseils. Peut-être réfléchir plus tôt, en effet, à cette question de précommande. Essayer peut-être de trouver un moyen, et c'est encore ce qu'on est en train de chercher, mais tu vois, de produire entre guillemets à la demande, mais que ce soit quand même en roulement, qu'on n'ait pas à faire attendre à chaque fois les gens plusieurs semaines avant de recevoir leurs ensembles. Mais sinon, au final, comme l'ensemble ressemble à ce que je voulais, c'est ça la plus grande des victoires. Je n'aurais pas pu arrêter le Covid. Voilà, ça, je m'en serais bien passé aussi. Mais...
On est tous à la même enseigne par rapport au Covid. Hein.
Ouais, j'ai l'impression que... moi, je sais que j'ai fait des collaborations avec des marques pendant le confinement, et celles pour qui les usines tournaient et qui ne lançaient pas de nouveaux produits, ça allait très bien.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est plus pour les petites marques que ça a été complexe.
Les pioupiou. Peut-être sur ton orga personnel, parce que je pense que t'as quand même 2-3 trucs à nous apprendre, parce que quand même faire un master, gérer une chaîne YouTube, un podcast, un compte Instagram très suivi, tu réponds à tous les gens qui t'écrivent?
Non, malheureusement non, en plus j'ai 5 comptes Instagram. Donc c'est compliqué. C'est vrai que mon principal, c'est celui où je suis la plus active. J'essaie de répondre à un maximum de commentaires, même les commentaires, j'essaye le plus possible, mais c'est compliqué, les messages c'est très compliqué, donc Et c'est pour ça, en fait, bah, d'ailleurs, ça, on n'en a pas parlé, mais j'ai un autre projet qui s'appelle Girls in Biz.
Oui.
Qui était partie de cette réalisation que bah, je recevais beaucoup de messages, notamment d'auditrices du podcast, qui avaient des idées de projet, qui voulaient se lancer, mais qui avaient pas mal de barrières mentales ou de doutes ou de questions, et qui m'envoyaient des mails, même pas des DM, tu vois, enfin des DM aussi, mais même des mails, et en fait, même les mails, c'est compliqué de répondre à tout le monde. Et j'étais pas contente de moi, en fait, de juste me dire bah, j'ai pas le temps, je peux pas leur répondre. Je voulais trouver une solution, donc j'ai créé Girls in Biz, qui est un club, en gros, pour aider les femmes à prendre le pouvoir de leur vie, et où, en fait, chaque mois, j'organise un atelier de 2 heures où il y a une mentor qui vient pour raconter son parcours, pour partager son expérience, et après 1 heure où on échange des questions-réponses, où je peux répondre à toutes leurs questions. Où, tu vois, je me suis vraiment dit, je vais dégager 1 soirée par mois pour ma communauté, où là, je peux les aider. Donc, pareil, le Covid a clairement mis le truc en suspens, ouais. mais ça, c'est un truc que j'essaie de faire pour essayer de répondre et aider le plus de personnes possible.
Ouais. Et donc, ton organisation au quotidien, ça ressemble à quoi? Comment tu fais pour pas être submergé finalement? Parce que tu as vite fait. Enfin, t'as vite fait d'être submergé, quoi. Enfin, si tu dois poster tous les jours sur tous tes comptes, t'as ton podcast, machin, ça doit être le bordel dans tes têtes, non?
Ben, écoute, c'est vrai que je suis une grande adepte des to-do.
Ouais.
Donc j'adore, en fait ça me rassure, tu vois, c'est pas le truc tant de faire, parfois je fais pas tout, je m'en veux pas, mais au moins je sais que si je m'organise bien, ça peut rentrer. Ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été après de minuter mes to-do, donc vraiment de me dire, enfin moi vraiment, tu veux, ma journée ça va être de 9h30 à 10h30 je fais ça, de 10h30 à 11h30 je fais ça, enfin c'est assez carré, mais moi ça me plaît. Comme j'aime faire plein de choses, bah, en fait je change de tâche, tu vois, moi typique je peux pas bosser plus de 2 heures sur la même chose. Genre vraiment, c'est pas ma personnalité. Donc, tous les 1 heure ou toutes les 2 heures, je change d'activité. Et au final, j'arrive à rentrer pas mal de choses. Alors vraiment, je te dis, je sais pas comment je faisais avant que Ryan me rejoigne. Bah tiens, on m'appelle. Bon, c'est pas grave. Ah merde, j'avais un call à 18h30. Bah tu vois,
typique.
Mon organisation n'est pas parfaite.
Ouais.
J'ai oublié de noter dans ma to-do que j'avais un call. Voilà, à cette heure-ci. C'est pas grave.
Joël,
on t'embrasse si tu nous écoutes. Donc franchement, j'avoue, hein, ce serait mentir de dire que parfois, je suis pas sous l'eau. Mais je me dis que si jamais j'arrive pas à tout faire, il y a pas mort d'homme. J'ai progressé là-dessus. Parce que vraiment, avant, franchement, avant, enfin, la première année où j'avais mon compte Instagram, si je postais pas un jour, parce qu'il y avait eu un truc dans la soirée, dans la journée qui avait fait que je pouvais pas poster, j'étais pas bien. Genre, j'ai ce genre de personnalité, tu vois, un peu freaky. Bah, j'aime bien en fait que les choses se passent comme je l'avais prévu.
Tu dors combien d'heures par jour?
Je dors assez, pas mal, je dors 8 heures.
8 heures. Et tu manges. T'es une ouf de la bouffe, hein.
Ouais.
Tu fais vachement attention à ce que tu manges.
Ah non, enfin, en fait, j'aime pas ce terme. Parce que pour moi, on devrait pas faire attention.
Ouais.
Pour moi, on doit manger ce qui nous fait du bien.
Qui fait du bien?
Alors, moi, ce qui me fait du bien, c'est trouver des plats fins. C'est de me faire à manger déjà. Je retire beaucoup plus de plaisir de cuisiner que d'acheter à manger. Donc, ce qui me prend aussi beaucoup de temps, on va pas se mentir, parce qu'en plus, je mange vraiment souvent. Parce que pour moi, la bouffe, c'est un carburant. Je pense qu'on sous-estime vraiment le pouvoir de la bouffe. Enfin, moi, je sais que je suis très sensible à ça, donc je le remarque tout de suite. Il faut que je mange toutes les 4 heures. Sinon, au bout de 4 heures, j'ai faim et j'arrive plus à réfléchir. Donc, je me fais à manger et des plats gourmands, mais fait maison, parce qu'en effet, c'est pas que je fais attention, c'est juste que déjà, j'ai pas le même problème de digestion, donc tout ce qui est industriel, ça passe pas bien. Donc, je préfère me faire à manger, je sais ce qu'il y a dedans. Et pour moi, tout ce qu'on fait soi-même est bon, même si c'est un fondant au chocolat qui est fat, ben, c'est fait maison. C'est ça qui est bon aussi, tu vois. Donc. Ouais, j'ai pas du tout de règles dans la bouffe, je le dis très souvent, je peux me faire des pancakes le soir, je peux me faire des omelettes le matin, enfin, salé, sucré, tout ça, pour moi, ça n'a pas du tout de règles.
Ouais.
Donc je mange ce que je veux quand j'ai envie.
Et cette confiance en toi que t'as, qui est surpuissante pour une jeune femme de 23 ans, elle vient d'où et qu'est-ce que tu conseilles aux gens de faire qui n'ont pas cette confiance en eux?
Alors, je dirais que ce qui m'a le plus donné confiance en moi, c'est d'arrêter de me soucier de mon apparence physique. C'est-à-dire, parce qu'en tout cas, c'est là, moi, où je manquais de confiance en moi. C'est-à-dire, quand j'étais adolescente, je m'aimais pas du tout physiquement. Et pour moi, une femme devait être belle, en fait. Donc, en fait, je faisais tout pour essayer d'être belle, sans jamais y arriver, vu que dans tous les cas, je pense qu'on est conditionné pour ne pas forcément réussir à se trouver belle, notamment en tant que femme, quand on nous dit tout le temps qu'on doit ressembler à quelqu'un d'autre. Vu que j'ai une sœur jumelle qui est super belle, en plus je me comparais, enfin nos parents nous comparaient souvent, les gens nous comparaient, j'avais l'impression que toutes mes amies étaient plus jolies que moi, donc j'avais vraiment ce complexe, tu vois, et en fait j'ai perdu trop de temps et d'énergie à essayer de changer mon apparence physique alors que j'ai réalisé que c'est pas du tout ça qui me rendrait heureuse ou qui me donnerait confiance en moi. Donc en fait, j'ai gagné confiance en moi quand j'ai arrêté de perdre du temps à changer quelque chose que je pourrais pas changer et j'ai commencé à m'accomplir. Et donc à m'accomplir à travers mes projets. Et je pense que ça donne vraiment, vraiment confiance en soi.
De réussir aussi, non ?
Bah, en fait, j'ai pas envie de dire... Enfin,
c'est pas le bon
ce serait
terme.
Mentir, tu vois, de dire non. Mais je pense pas que ce soit le bon mot parce que, comme je te disais, je pense que même à la fin de l'année, quand j'avais 10 000 abonnés, j'avais gagné confiance en moi, ne serait-ce que parce que j'avais osé, que je partageais quelque chose qui me tenait à cœur, que j'avais arrêté de me soucier de choses qui ne m'apportaient rien de positif. Donc oui, forcément, ça aide quand tu vois que ça grandit, que tu peux créer d'autres choses. Mais c'est surtout un peu quand tu décides que en fait, pour moi, ça se choisit un petit peu. Genre, forcément, ça s'acquiert, mais il y a aussi un choix. Moi, j'ai vraiment choisi d'arrêter de me soucier de la taille de mon nez ou de la longueur de mes cheveux ou de la couleur de ma peau. Enfin, tu vois, c'est vraiment essayer de me dire, mets ton énergie là où tu es la plus épanouie, en fait. Et s'épanouir, m'a donné confiance en moi, en fait, c'est ça.
Et comment on s'épanouit ? En faisant des trucs qui te font vraiment
kiffer,
quoi.
Exactement. Ouais. En faisant pas de... Ouais, c'est ne pas... Enfin, c'est être aligné, tu vois. Si jamais tu sais au fond de toi, là, il y a un truc que t'aimerais changer dans ta vie, bah change-le. Et c'est ça qui te permettra de t'épanouir.
Qu'est-ce qui fera que t'auras eu une vie épanouie ?
De pas avoir de regrets. Ne pas avoir de regrets. Donc, j'essaye... J'essaie de m'écouter le plus possible. Pour l'instant, j'y arrive plutôt bien. Mais bon, typique, ça, tu vois, c'est vrai, j'arrive pas trop à ressentir mon intuition. C'est un truc qui me fait un peu peur.
Ah ouais ?
Ouais. C'est un truc qui me fait un peu peur parce que j'y crois beaucoup, mais je suis un peu déconnectée corps-esprit,
encore,
tu vois.
Ouais.
Donc, j'aimerais bien l'écouter. Enfin, tu vois, typique, là, c'est con, hein. Mais dis-toi, j'ai tout te dire. J'ai signé pour un appart la semaine dernière, mais je continue à recevoir des mails d'appart et j'en ai vu un que je trouve trop beau. Et en fait, j'ai programmé une visite, alors qu'en soi, j'ai déjà signé une promesse de vente.
Mais
parce que j'ai ce truc du FOMO un peu. Genre, typique, moi, je suis une meuf, j'arrive pas à faire de choix. Donc, ça, typique, j'espère que ça me jouera pas de tour trop dans ma vie, tu vois. Parce que je pense que c'est ça aussi, c'est assumer ses choix, se faire confiance, tu vois, s'écouter. J'ai confiance en moi dans le sens où je vis selon mes envies et mes propres règles, mais j'ai du mal à m'écouter. Donc, j'espère ne pas avoir de regrets à ce niveau-là, tu vois. Ne pas me dire, mais putain, là, t'aurais dû, tu vois. Ça, j'ai un peu peur, mais on peut. Enfin, voilà, ne vivons pas dans la peur. Hein. Dans tous les cas, il faut assumer ses choix. Et ce qui me rassure aussi, c'est de me rendre compte, au fur et à mesure que j'avance dans la vie, de me rendre compte que rien n'est immuable. Donc, en fait, tu peux tout changer.
Ouais.
Et avant, ça me faisait vachement peur, tu vois. Si je prends cette route-là, ça va m'emmener dans cette vie-là. Comme si t'avais genre plusieurs plans de vie et que tu devais fermer les yeux et tirer, tu vois. Non, en fait, si tu fais un truc et que ça te plaît pas, mais tu peux totalement bifurquer. Mais c'est pas grave, t'as pas perdu du temps, t'as vécu. Et de chaque période de vie, tu en tires des enseignements. Donc,
c'est hyper important ce que tu soulignes là. Hein. Je trouve que c'est vrai et y a pas d'âge pour changer, quoi.
Ouais, vraiment, vraiment. Et je le vois à tout âge. Enfin, voilà, tant que vous en ressentez l'envie, le besoin, écoutez-vous, quoi.
Même très tard, en fait. Moi, je vois, j'ai changé à 30 ans. C'était impossible de changer à 30 ans dans ma tête de l'époque, tu vois. Et je pense que tu peux même changer à 40, 50, 60, même 70, 80, tu vois.
Ah
tu
non,
peux,
mais carrément.
Tout est encore jouable.
Ouais, carrément. C'est vrai que je pense que c'est plus difficile parce que t'as plus de barrières mentales. Mais c'est pas du tout impossible. Et c'est en plus souvent là où t'en retires le plus d'épanouissement. Parce que tu vois, limite, moi, parfois, entre guillemets, je regrette de pas avoir vu de pas avoir eu d'expérience bien corpo qui m'aurait bien dégoûté, tu vois, du salariat parce que je sais que je suis pas du tout faite pour ça, tu vois. Donc en soi, j'en ai conscience, donc c'est pas grave que je l'ai pas vécu, mais je pense que les personnes qui l'ont vécu, bah, dans leur moment de galère d'entrepreneur, ils se disent ouais, mais tout vaut mieux que ça. Moi, parfois, rarement, je me dis ça doit quand même être cool d'avoir un week-end.
Ça a l'air qu'il tombe tous les
mois, tu vois. Et j'ai pas ce point de comparaison, mais c'est pas grave, tu vois. Voilà. Donc, d'autant plus, quel que l'âge que vous ayez, rendez-vous compte qu'il y a des avantages et des inconvénients à chaque âge.
Bien sûr. Qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast ? C'est la fin, là, on arrive à la fin, hein. Ça fait une heure et demie qu'on est ensemble.
Je la connais, cette question. Je la connais. Il y a une femme que j'admire beaucoup, c'est Sarah Blakely, qui a fondé Spanx aux États-Unis, qui est la plus grosse marque de sous-vêtements aux États-Unis. Je crois même que ça pèse plus que Victoria's Secret qui... Bon, après, les deux ne sont pas très éthiques. Mais en tout cas, j'admire son parcours parce qu'elle est partie vraiment de sa chambre à découper sa culotte pour montrer ce qu'elle voulait aux usines. bah, Jacques Mus, hein, je crois que plein de gens l'ont cité, mais c'est vrai que c'est quand même très réussite, cool ce qu'il fait.
Qu'est-ce que t'aimes chez lui ? À part sa réussite ?
Non, non, moi ce que j'aime, c'est son côté unapologétique.
Je ne m'excuse pas.
Il s'excuse pas d'être qui il est.
Ouais.
Il le fait à sa manière, et si les autres sont pas contents, c'est pas grave. Et je pense que c'est vraiment ça l'avenir, c'est ne plus essayer de ressembler à qui que ce soit, ne plus essayer de rentrer dans un moule, parce que c'est vraiment notre singularité qui fait notre force, vu que personne n'est comme toi. Et je pense que lui, il a très bien compris. Et maintenant, c'est les marques qui sont à ses genoux, entre guillemets, tu vois, alors qu'au début, j'imagine que c'était plus compliqué, tu vois, de s'imposer. Donc ouais, être unapologétique, c'est ce que j'admire le plus chez lui et chez d'autres. Je pense que c'est... Alors, il y a Elissab, juste parce que depuis tout petit avec ma sœur, on se dit que notre robe de mariage, ce sera Elissab.
Ok.
Voilà. T'as trois personnes.
Ok. J'ai l'embarras du choix. Et la dernière question que j'aime bien poser aussi en ce moment, c'est... Alors, tu le sais, hein, j'ai une marque qui s'appelle... j'ai cofondée avec Alice et Julien, qui s'appelle Réunis. Si tu pouvais me donner un conseil sur cette marque, qu'est-ce que je devrais faire différemment? Qu'est-ce que je pourrais améliorer de ce que tu en as vu?
Alors, déjà, je trouve ça très cool que tu sois dans cette logique de co-création parce que tu t'assures aussi de répondre à un besoin. Peut-être, moi, de ce que j'ai vu, mais c'est difficile. Enfin, tu vois, c'est difficile parce que c'est ma vision des choses, VS ton ADN aussi. Mais je pense que ce qui marche vraiment bien, et en plus, moi, c'était pas du tout stratégique, mais c'est le "on veut du vrai". Tu sais, j'ai lancé un hashtag qui est en fait un mouvement qui s'appelle "on veut du vrai", qui appelle à plus de vrai sur les réseaux sociaux. Parce que quand on en a marre, tu vois, des filtres, des photos trop léchées. Et je sais, quand on est marque, c'est un peu difficile. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de marques qui tombent dans cet écueil de vouloir faire des trop belles photos, des trop beaux contenus, à défaut d'en faire plus souvent ou à défaut que ce soit plus spontané. Donc moi, ce serait peut-être ça. Je trouve que les photos sont très belles et je trouve qu'il y a toujours de la place pour les belles photos. Mais peut-être un peu plus de...
Behind the scenes.
Tu vois, même sur ton feed, genre Alice qui porte le pull là, dans ce miroir chez toi, tu vois.
Bien sûr.
Parce que c'est là où on va vraiment sentir la puissance de la création aussi derrière et s'identifier. Donc moi, j'encourage toutes les marques à faire plus d'on veut du vrai.
Très bien, trop cool, merci infiniment, c'était trop cool, bravo pour tout ce que tu fais. Franchement, moi, je suis hyper impressionné par ton parcours quand même et par ton énergie, quoi, à faire tout ce que tu fais. Donc bravo et bonne continuation et continue à nous inspirer.
Bah, c'est très gentil, merci à toi Adrien de m'avoir reçu et merci à toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout de cet épisode. Vous êtes des vrais.
À bientôt, salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.